Bonjour tout le monde et bienvenue dans le Made in Québec podcast. Mon nom est Antoine Meunier et aujourd'hui, c'est un épisode historique pour le Made in Québec podcast. Je suis vraiment très, très heureux de pouvoir vous le présenter. Non seulement c'est la suite du spécial baseball pour la Série mondiale, comme vous le savez bien sûr, on a reçu Marc Griffin dans le dernier épisode de RDS. C'était vraiment un excellent épisode. Et puis aujourd'hui au podcast, on reçoit Éric Gagné, Game Over, pour une deuxième fois au podcast, c'est-à-dire qu'on l'a reçu dans l'épisode numéro 21 de la première saison. Ceux qui veulent écouter le podcast, je vous le dis, c'est complètement différent. On essaye de pas trop aborder les mêmes sujets. Dans le premier podcast, ça a duré quand même 3h08. Si j'ai une bonne mémoire, c'est le record absolu pour le plus long podcast de l'histoire du Made in Québec podcast. Et puis celui-ci, Éric, il était encore plus à l'aise que dans le premier podcast. Naturellement, on développe une chimie avec les invités au fur et à mesure qu'on les reçoit. Comme toujours, on le connaît très transparent, très humble. Il est capable d'admettre ses torts. Mais là, c'était vraiment un autre niveau. Éric a été très, très, très à l'aise avec nous. Il m'a donné carte blanche avant le podcast. Il m'a dit, écoute, tu me parles de ce que tu veux. N'hésite pas. Fais pas de filtre dans tes questions. Puis ça a été clair avec lui. Et puis, on a abordé plein de sujets fort intéressants, je vous dis. C'est sûr que je voulais aborder des sujets côté plus down un peu de sa carrière, des choses qui se sont passées. On connaît le rapport Mitchell, ceux qui suivent un peu le baseball majeur. Lorsque le rapport est sorti pour dénoncer les gens qui avaient pris des produits améliorés, les performances, dont Éric Gagné qui avait sorti dans ce rapport-là. Mais je voulais vraiment connaître comment lui s'est senti à travers toute cette époque-là. Il nous parle de pourquoi il a commencé à prendre ces produits-là, comment il a découvert également que ça se faisait dans le baseball professionnel. C'est vraiment ses raisons, ses motifs. Les bienfaits ont été vraiment plus moindres que ce que je pensais, en fait, pour lui. Il nous raconte, selon lui, ce que ça a donné de positif et de négatif sur ses performances et surtout sur son corps, parce qu'il a vraiment écopé par la suite, comme il va nous raconter. On en avait un peu abordé dans le premier podcast, mais je n'étais pas à l'aise d'y en parler. c'est mon idole, Éric Gagné. Je lance au baseball à cause de lui. Je suis devenu closer à cause de lui. C'est vraiment mon inspiration. Et puis, je voulais mettre en valeur ses bons côtés dans sa carrière. Mais là, on était plus à l'aise. J'ai voulu commencer tout de suite avec ça en partant dans le podcast. Et puis, bien sûr, on parle du retour des expos. On parle de tout plein d'autres choses super intéressantes, des meilleurs moments de sa carrière, des bonnes anecdotes au stade olympique qu'il a vécu. Écoute, on parle un peu de son apparition avec Barry Bonds qu'on a raconté en détail dans le premier podcast. Donc, on a survolé vraiment rapidement ça. Sa vision de l'avenir aussi dans le baseball majeur, selon lui, vers où ça s'en va. On a également parlé du côté entrepreneur d'Éric. Il est un des propriétaires, en fait, de B45, une entreprise en fait qui spécialise dans le baseball, la configuration de bâtons de baseball, d'équipements, c'est-à-dire des gants, ça. C'est vraiment une entreprise fièrement québécoise qu'Éric a acquis en compagnie de d'autres propriétaires, bien sûr. J'ai reçu aussi Kevin Young dans le premier podcast. Allez écouter ça. Je pense que c'était le 6e épisode. Kevin Young, c'est un des représentants, en fait, de B45 à travers le baseball majeur. Très bon épisode à écouter. Et puis, on a fait un survol. On a parlé de l'actualité, la Série mondiale, bien sûr. On a parlé des Rays, des Dodgers, des conseils qu'il aura donné à Kenley Jansen, le closer. Bref, on a touché au baseball en masse. Tous ceux qui sont des fans de baseball, comme ceux qui nous écoutent présentement, je vous dis, c'est un très bon podcast à écouter. Éric, très à l'aise, très volubile, comme j'ai appris à le découvrir en faisant des podcasts avec lui. Et puis, aujourd'hui, je vais couper ce cours pour l'intro au niveau d'Éric Gagné. Je vous dis, je vais vous laisser la place pour le découvrir dans le podcast. Mais la raison pourquoi je vais couper ce cours, quand je disais que c'est un épisode historique aujourd'hui, c'est vraiment spécial. Mon podcast vient d'atteindre un autre niveau aujourd'hui officiellement. Les deux premiers partenaires du Made in Québec podcast qui ont cru en mon projet, qui m'ont proposé leur aide et offert vraiment des offres que je ne pouvais pas refuser. Quelle générosité de leur part. Je ne sais pas comment les remercier autrement. Je vais les présenter un après l'autre. Ce n'est pas dans un ordre d'importance, c'est bien de le mentionner. J'ai deux partenaires en or que je suis très fier de représenter aujourd'hui. La microbrasserie Shawbridge, c'est une entreprise d'ici, c'est-à-dire moi j'habite dans Laurentides, à Saint-Jérôme précisément. Et puis eux autres sont de Prévost. Donc, tous ceux qui aiment encourager les microbrasseries québécoises, un beau spot vraiment pour aller manger, tout près de la gare, en fait, de Prévost. Ceux qui font du vélo également ont sûrement passé par là. C'est-à-dire, quand vous arrivez à la gare de Prévost, c'est situé directement là. La microbrasserie Shawbridge. Shaw s'écrit comme Andrew Shaw, comme on disait dans le podcast, ceux qui sont fans de sport. Shawbridge comme un pont, bien sûr. Et puis, c'est une très belle histoire, la microbrasserie Shawbridge. Je vais vous raconter ça rapidement dans le podcast et surtout pour vous faire découvrir cette bière-là. C'est drôle parce que les gens me vont dire « Ouais, mais t'es-tu payé pour dire ça? » La réponse est oui. Ils ont cru en moi, donc ils m'ont payé, bien sûr, pour faire la commandite, mais ils ne m'ont pas payé pour dire ce que je vais dire. C'est vraiment, j'ai été libre de choix de dire ce que je voulais dire. La microbrasserie, c'est une de mes préférées, Shawbridge, depuis longtemps. Depuis leur création, en fait, j'adore les encourager, j'adore le bière, le goût. Ils ont fait un test même pour savoir si j'étais un réel fan avant d'accepter ce partenariat. Et ils ont bien vu que je connaissais très bien le produit. La IPA 117 de la microbrasserie Shawbridge, je vous dis, allez goûter ça. C'est une IPA incroyable. Vous voulez avoir les détails techniques de la bière, là, je vous dis ça tout de suite. Pas pour vous mettre l'eau à la bouche, mais je vous dis, tellement une bonne bière. Je l'ai bu au complet pendant le podcast. J'en ai d'autres également dans le frigo au froid. L'IPA 117, en fait, pour ceux qui se demandent, c'est une IPA qui est non clarifiée, intense en saveur et en amertume, avec des notes florales, citronnées de fruits tropicaux. L'IPA 117 apporte bien son nom quand on pense à l'étendue de saveur qu'elle offre. Des notes d'agrumes bien présentes grâce aux huiles essentielles en provenance de 5 houblons différents. Et surtout, une petite coche d'amertume qui va vous faire du bien. Ces arômes-là se développent en fait. Avec le temps, vous gagnerez à la boire tranquillement. C'est leur slogan. Se boit plus vite qu'un trajet Montréal-Abitibi. Tellement bon. Vraiment, là, ça prenait un génie pour penser à ça. Très bon slogan. Également, pour vous dire que c'est une IPA American India Pale Ale, comme vous connaissez bien le terme de l'IPA. 5,8% d'alcool pour ceux qui se le demandent et IBU 60, également aromatique de Amarillo, Mosaïque, Citra, Peco et Azaka et se boit idéalement à 6 degrés Celsius pour goûter tous les moindres détails de cette bière. Alors, je vous dis, microbrasserie Shawbridge, un énorme merci encore une fois de croire au podcast, de croire en moi, de me donner l'opportunité de poursuivre ce beau podcast-là. Et je vous dis, allez les encourager. Ils ont besoin de vous. Quand je vous disais que le podcast a surtout une mission locale de vraiment prôner l'achat local avant tout, c'est vraiment encore une fois le but. La microbrasserie Shawbridge est une des raisons, en fait, pourquoi je fais le podcast, de vous faire découvrir ces entreprises-là d'ici, de ma région des Laurentides en plus. Quelle belle initiative de la part de ces propriétaires-là de s'avoir établi ici dans les Laurentides à Prévost. Alors, allez les encourager. Et ceux qui se demandent s'ils ont d'autres bières, et oui, ils ont d'autres bières, bien sûr. Également une très bonne blonde au miel, délicieuse. Je vous dis, allez goûter ça. Ils ont également une blanche au jasmin qui ont sorti tout récemment. Et ceux qui se demandent la blonde au miel, c'était la Saint-Saul, bien sûr, délicieuse. Elle laisse un bon petit fond de miel dans la bouche. Et la Séraphin, qui est une de mes préférées, une rousse Irish style, un peu de cream ale. Elle a un petit fond de crème dedans, là, délicieuse, 6,2%. Et la Charlotte également, c'est une golden ale. Bref, je vous laisse aller les découvrir. Ils font de l'excellente bouffe aussi. Je suis très heureux de pouvoir vous présenter ces produits-là aujourd'hui. Donc, et mon deuxième commanditaire, je vous dis, ceux qui se disent « Ah, je vais passer ça vite pour écouter le podcast au plus vite », je vous conseille vraiment d'écouter les commandites du jour parce que c'est grâce à eux que ce podcast-là peut avoir lieu. Deuxième commanditaire pour aujourd'hui, c'est l'entrepôt du baseball. Quand je vous dis que c'est des commandites qui me ressemblent, ceux qui me connaissent, connaissent mon amour pour la bière et pour le baseball, bien sûr. Je pense que ça paraît un petit peu comment je t'habille. Et puis, l'entrepôt du baseball, c'est une entreprise située à Le Gardeur, dans le coin de Repentigny aussi. Pour ceux qui connaissent la région, là, ceux qui veulent aller visiter l'entrepôt du baseball, c'est sûr qu'actuellement, je pense qu'ils sont fermés au niveau des cages de frappeurs. C'est une entreprise qu'on peut aller frapper des balles. Et il y a également une boutique qu'on peut acheter du stock. Il s'implique énormément au niveau du baseball mineur. Donc, c'est une entreprise qui me tient à cœur de pouvoir représenter aujourd'hui dans le podcast. Et ceux qui veulent en apprendre davantage pour l'histoire de l'entrepôt du baseball, en fait, c'est une entreprise qui est née de la passion et de l'amour du baseball avant tout en février 2012. Également, un clin d'œil pour leur héros d'enfance, Gary Carter, qui s'est éteint le même jour où ils ont ouvert les portes de l'entrepôt du baseball. Donc, vraiment assez spécial, merci. Ils ont un centre multifonctionnel d'entraînement qui inclut un espace de musculation, de préparation physique, cage de frappeur, sur gazon synthétique avec lance-balle. J'adore vraiment le cage. Là. Vous pouvez louer à l'heure leur cage de frappeur. Ils ont également un simulateur et tracks que vous pouvez frapper, vous voir dans un stade du baseball majeur. Vraiment une très, très belle place pour les fans de baseball de la région de la Rive-Nord. Et si vous venez de plus loin, faites un détour, l'entrepôt du baseball. Comme je vous disais, ils ont des simulateurs en mesure de performance. S'intègre à cela la boutique, en fait, de deux étages, renommée pour sa disponibilité d'items spécialisés pour tous les budgets. L'entrepôt du baseball offre depuis l'ouverture des programmes en fait d'entraînement privé, semi-privé, également de groupes en collaboration avec des associations du baseball mineur, également des programmes de concentration sportive, sport-études. Il y a des entraîneurs qualifiés qui sont avec l'entrepôt du baseball que vous pouvez avoir. C'est vraiment des excellents entraîneurs, je vous le dis tout de suite, des gens que vous connaissez également souvent, qui sont très expérimentés, des véritables passionnés de baseball. Récemment également, ils ont ouvert un tout nouveau programme en collaboration avec TNXL Canada, qui a comme objectif d'amener à un plus haut niveau l'expérience client. Également, ils ont ouvert une boutique spécialisée dans une place que je connais très bien, le Centre de perfectionnement de baseball des Laurentides, situé à Blainville avec mon bon ami Tristan Baudin. Allez les voir, très belle boutique, très belle place que vous pouvez vous entraîner également là-bas. Pour les gens plus des Laurentides comme moi, une très belle place également en collaboration avec eux. Ils ont une prochaine boutique qui va ouvrir. On va venir plus tard avec ça, avec les prochains détails. Et si ça vous intéresse d'acheter de la marchandise baseball, présentement en promo série mondiale, 33% de rabais sur tous les items en boutique. Alors, allez voir ça, l'entrepôt du baseball. C'est un spécial seulement pour la série mondiale. Donc, si vous écoutez ce podcast-là dans la semaine de la série mondiale, allez les encourager, 33% de rabais, c'est énorme. Sur tous les articles présentement en boutique, ça vaut la peine de les encourager. Alors, je vais vous mettre tous les détails, les liens. On va faire également des concours, des tirages avec plusieurs items pour tous les fans de baseball. Allez suivre la page Facebook du Made in Québec podcast, mais également la page Facebook de l'entrepôt du baseball et bien sûr de la microbrasserie Shawbridge. Allez suivre les réseaux sociaux. Ceux qui se demandent, il y a plusieurs microbrasseries Shawbridge, c'est juste Shawbridge, la page Facebook, parce qu'il y en a eu des imitations. Bref, tout ça pour vous dire que c'est mes deux partenaires d'aujourd'hui, tellement fiers de les avoir avec moi présentement. Je vous dis, c'est un bon podcast, écoutez ça. Fièrement québécois, Éric Gagné. Des bonnes anecdotes baseball. On va se régaler aujourd'hui en pleine série mondiale. Alors, je vous souhaite une excellente écoute du Made in Québec podcast. Et puis, je remercie encore une fois tous mes commanditaires et allez les encourager, s'il vous plaît. Ils méritent surtout, dans ces temps-ci présentement, plus que jamais. Alors, merci beaucoup tout le monde pour votre écoute et continuez de suivre le Made in Québec podcast.
Avec ta balle, Michette, t'as déjà striké dans tes bichettes, et avec tes lunettes qui font peur, la victoire est signée.
Bonjour tout le monde et bienvenue dans le Made in Québec podcast. Mon nom est Antoine Meunier et aujourd'hui, c'est le 7e épisode de la saison, de la 2e saison en fait du podcast. Et puis, je reçois un invité que beaucoup, beaucoup de gens m'ont parlé dans la première saison. En fait, ça a été l'invité coup de cœur de pas mal de gens d'entre vous. Je reçois Éric Gagné, Game Over, le closer vedette des Dodgers de Los Angeles. Écoute, ça a été vraiment un plaisir de recevoir Éric dans la première saison. Et puis, on avait eu un beau 3h08 de jasette. Alors, on s'était dit qu'il en restait encore à raconter. Que voulez-vous? Il y a une carrière énormément bien remplie, puis il y en a tellement d'autres à raconter. Alors, fallait que je le reçoive une deuxième fois. Et puis, en même temps, j'avais d'autres questions que je n'avais pas terminées. Alors, vous allez voir, ça va être fort intéressant. Et puis, je vous dis, on ne se répétera pas. Donc, tous ceux qui veulent voir le podcast, en apprendre davantage sur Éric, sur le début de sa carrière, sur tout plein d'autres trucs, allez voir vraiment dans la première saison, l'épisode numéro 21 avec Éric Gagné dans le Made in Québec podcast. Ça vaut la peine d'écouter. Et puis, premièrement, Éric, comment vas-tu?
Moi, j'ai une question, par exemple. Oui, tu as mis beaucoup de pression, tu as dit on ne se répétera pas. Ça, c'est sûr. tu ne te répéteras pas. Moi, je vais me répéter, c'est sûr.
Écoute, ça peut juste être bon au pire. Tu vas te répéter d'une manière encore peut-être différente ou plus claire. Ça va être juste mieux pour tout le monde. Fait qu'il n'y a pas de stress.
Espérons que ce n'est pas un mensonge.
Non, écoute, là, si c'est un mensonge, j'en parle.
C'est ça. C'est correct.
Écoute, non, ça va être bon. Je te dis, j'ai un feeling. Des fois, en recevant un invité, tu le sais que celle-là va être bon. Et aujourd'hui, il y a quelque chose de spécial dans l'air. Je le dis parce que c'est officiellement le premier podcast commandité de l'histoire du Made in Québec podcast. Et puis, je suis tellement fier de vous présenter la commandite. Il y en a deux en plus aujourd'hui. Un épisode avec Éric Gagné, ça l'attire l'attention. Et puis, celui-là attire énormément l'attention. Alors, je vous présente mon premier commanditaire officiel du podcast, la microbrasserie Shawbridge. Ceux qui veulent essayer ça, Éric, ça tente de t'en faire venir. Je ne sais pas si c'est possible.
Comment t'écris ça? Shawbridge?
Shawbridge. Comment t'écris ça? Ouais, ben comme Andrew Shaw, mettons. Là. S.
Ouais, OK, Shaw. OK, parfait. Parfait.
S-H-A-W, Bridge comme un pont. Aujourd'hui, je vous présente une excellente bière, la IPA 117. C'était déjà ma IPA préférée, en fait, avant qu'il soit mon commanditaire. La preuve, je m'étais déjà procuré leur verre. Je vais vous en parler davantage dans l'intro. Donc, ceux qui écoutent l'entrevue, vous avez déjà entendu l'intro sûrement. Alors, je ne me répéterai pas, mais allez les encourager. Microbrasserie Shawbridge. Et puis, mon deuxième commanditaire du jour, l'entrepôt du baseball. Possiblement qu'Éric connaît ça. C'est sûr que c'est pas évident en ce moment avec la pandémie. Ce qu'on connaît, là, on peut pas ouvrir certains trucs, dont des centres d'entraînement. Mais dès que possible, ça va réouvrir. Allez les encourager. Achetez de la marchandise. Il y a toujours possibilité, l'entrepôt du baseball en ligne, des encourager. Et puis, on va revenir dans l'intro en détail là-dessus. Donc, l'entrepôt du baseball et microbrasserie Shawbridge dans les Laurentides, situé à Prévost. Allez les encourager. Alors, désolé, il fallait que je fasse la parenthèse. Deux commanditaires qui permettent la survie de ce beau podcast-là et des beaux invités comme Éric Gagné aujourd'hui. Et on va faire un topo, en fait, sur ta carrière maintenant, rapidement, parce que je veux vraiment embarquer dans le vif du sujet avec Éric. 1994, repêché par les White Sox de Chicago, ceux qui avaient oublié, et non les Dodgers. Les White Sox ont cru en Éric au départ. 1995, signe avec les Dodgers. Donc, les Dodgers l'avaient spoté et ils sont repris en 1995. Par la suite, il a été au collège Seminole en Oklahoma pour les Trojans. Très beau collège américain, en fait, très prestigieux. 1997, gros changement dans sa carrière, opération Tommy John, ça change beaucoup de trucs pour lui. Après ça, il pense prendre sa retraite. Heureusement, c'est pas arrivé parce qu'on connaît la suite. 1999, dans la Texas League, il a été nommé en fait lanceur de l'année. Donc, ça a été vraiment une très bonne année pour lui, 1999. Il a également eu son premier match en carrière, qui se rappelle sûrement très bien, contre les Marlins, avec les Dodgers. À l'époque, Éric était lanceur partant, donc il n'était pas le closer qu'on connaît aujourd'hui, mais un bon lanceur partant qui avait quand même eu aucun point mérité, 8 cas, donc 8 retraits sur des prises en seulement 6 manches de travail. Un pas pire premier départ pour un jeune lanceur. Par la suite, 2002, ses débuts comme closer dans le baseball majeur. Quand on parle de closer, c'est releveur en fin de match pour protéger l'avance des siens. On connaît la suite, 84 sauvetages consécutifs, un record des ligues majeures. 2003, il a remporté également le Wally the Relief Man Award et le Cy Young, le prestigieux trophée remis au meilleur lanceur de la Ligue nationale et américaine pour le baseball majeur. Plein de records, 161 sauvetages avec les Dodgers au total, qui a été un record jusqu'à Kenley Jansen cette saison. Remporté la Série mondiale en 2007 avec les Red Sox de Boston. En 2009, il est revenu au Québec pour terminer sa carrière avec les Capitales de Québec dans la Ligue CanAm. Remporté le championnat également. Et c'est vraiment une carrière remplie de succès. Aujourd'hui, Éric a plein de beaux projets à nous partager, dont un nouveau podcast qu'on a appris en primeur tout juste avant le podcast qu'Éric compte se lancer. Alors, on va en parler tout juste en commençant le podcast. Éric, parle-nous donc de ce beau projet-là qui t'est venu en tête, sûrement en faisant le Made in Québec podcast que ça t'est venu.
Ben, c'est exactement quand c'est arrivé. Non, ben, ça fait longtemps que je pensais, ça fait un bout que je parle au monde. Puis j'aime ça parler avec le monde, communiquer, d'avoir des discussions. Puis qu'est-ce que j'aime avec des podcasts sur un YouTube channel, c'est que tu peux t'asseoir et parler 2, 3, 4, 5 heures si tu veux.
je te confirme.
Comme tu dis, j'avais le record, tu vois. Que,
toujours.
Pour moi, c'est le fun, mais pour moi, le but là-dedans, c'est genre de parler aux mes amis, du monde que je connais, exemple Michael Phelps, des gars comme ça que je joue au golf avec. Ouais. J'essaie un petit peu de mettre plus dans l'ambiance, comme on s'est un petit peu en train de jouer au golf, tu comprends? On joue au golf, on s'assit. Wow. Soit qu'un segment, que ce soit une activité avec la personne que j'interview, puis l'autre segment, ce serait peut-être en studio, mais écoute, pour moi, le plus fun là-dedans, c'est juste d'apprendre à connaître la personne, puis de le montrer sur une nouvelle angle. Michael Phelps, tout le monde le connaît comme un gars qui est une personne qui est agressif, c'est une personne indestructible. Puis tu regardes, il a fait un documentaire, ça s'appelle « The Weight of Gold ». Puis il parle de sa dépression, il parle de toutes des choses comme ça, qu'il est vulnérable. C'est le fun de voir ça. Je pense que le monde réalise que le monde qui soit sur un piédestal, que je pense que c'est plus le monde qui nous met sur un piédestal, qu'on est pareil, on est des personnes normales, on est des problèmes, mm-hmm. on n'est pas plus fort que d'autres mondes. C'est juste qu'on est meilleur peut-être d'un sport ou d'une discipline qu'on fait, mais à part ça, on est pareil comme tout le monde. Puis je pense que c'est ce côté-là que moi que j'aime, parce que ça me donne un petit peu plus de temps pour moi de parler à personne, comme toi, comme je fais avec vous autres. Tu sais, t'assais, puis parler un petit peu de c'est quoi tes intérêts. Je pense que c'est ça que le monde aime, un petit peu plus des podcasts. Le temps de parler à personne, de communiquer, puis d'avoir des bons sujets. Des fois, c'est sûr que tu te perds un petit peu d'un sujet, mais c'est pas grave. Je pense que c'est ça la beauté là-dedans. T'as le temps en masse de faire ça. Puis je regarde, j'écoute Joe Rogan en podcast, j'écoute que vous autres. Tu sais, c'est le fun de voir du monde qui s'implique pour connaître les personnes, prendre leur temps, surtout avec la situation qui se passe là, partout dans le monde. Là. C'est important de ralentir un petit peu son train-train de tous les jours puis de connaître le monde. Puis je pense que c'est ça un petit peu mon but. C'est pas vraiment de faire une interview, c'est plus de parler à la personne que je connais. Puis pas d'ouvrir une personne, mais de que lui ait le choix de se faire découvrir d'une façon que lui veut. Exact. Je pense que c'est ça le plus qui est important. Parce que nous, quand on parle aux journalistes, on a 2-3 minutes à parler, puis ils vont mettre un petit snip de ça. Ça, c'est tout le temps. C'est juste une photo de tout du processus qui arrive. Même d'une interview, il a mis ça dans un mauvais contexte, ça arrive. C'est rare. Il faut que tu sois intelligent en tant que joueur de baseball, que tu sais c'est quoi le contexte. Il veut juste un one-liner, des choses comme ça, mais tu donnes un one-liner. Mais je pense avec les podcasts, pour moi, c'est important de comprendre un petit peu plus qu'est-ce qu'il veut dire le one-liner. Pourquoi qu'on dit ça? Tu sais, je pense que c'est ça qui est le plus important. Tu sais, des quotes qu'on dit, tout le monde entend des quotes. Ah, écoute, on travaille ensemble en équipe, des choses comme ça. Mais il y a une raison, c'est ça, il y a une raison pourquoi on dit ça tout le temps. Hein? Qu'est-ce qui est le fun, je pense, c'est de rentrer justement rentre en arrière un petit peu de.
Tellement.
Rentre un petit peu en arrière de tout le visage ou la shell que nous autres, les joueurs, on a un petit peu avec les partisans, puis que les partisans avec nous, je pense, t'enlèves ce mur-là. Je pense que c'est là que tu vois la beauté des sports et la beauté de la relation que tu peux avoir avec les fans.
Écoute, tellement.
Je pense que c'est ça un petit peu plus mon but. But de podcast ou du YouTube channel, c'est juste d'ouvrir, de montrer un Michael Phelps d'une façon différente. Et le monde dit « Oh, ben, c'est bizarre, tu sais, c'est pas une personne qui est incroyable. » C'est ça, il est incroyable comme personne, mais il est vraiment drôle. C'est une personne qui aime peut-être moins parler au monde en avant tout le monde, mais il est tellement bon à parler devant le monde. C'est bizarre, tu sais. Moi, j'aime pas parler au monde, j'aime pas le monde, mais quand je parle du sujet que moi j'aime, ça l'aide. C'est
exact.
C'est faire le bon sujet, puis je pense que c'est ça le monde peut s'épanouir un petit peu plus quand tu as plus de temps ou quand tu parles de sujets que la personne veut elle-même.
Exact.
C'est ça qui est le fun, je pense. On a plus de temps de faire ça.
Oui, puis c'est le but du podcast, c'est que tu vas aller creuser dans des détails que tu n'as pas le temps, comme tu dis, de jaser dans une entrevue. Puis quand j'ai voulu lancer ce podcast-là, justement, c'était au départ, je pensais jamais recevoir des gens comme toi. Là, c'était vraiment plus locaux au Québec que je pensais à recevoir des gens, les faire découvrir tout ça. Mais en recevant des gens un peu plus connus, je me suis dit, vous avez, tu sais, les gens, ce qu'ils m'ont dit en fait comme commentaire, c'est, tu sais, on n'a pas souvent eu ce son de cloche-là, exemple, à tout le monde en parle. Il y a souvent des bons invités, ils passent 20 minutes d'entrevue, mais on a toujours l'impression d'apprendre des choses qu'on connaît déjà d'eux. Tandis Exactement. Que là, en te recevant, toi, en 3 heures, j'ai plein de gens qui m'ont dit « Aïe, j'ai su des choses sur Eric que je savais pas. J'ai appris à le connaître d'un autre angle. Il a tellement d'air sympathique, on l'a jamais vu autant jasant que ça. » Ben oui, c'est un gars comme toi puis moi.
T'as pas le temps.
Exactement, il n'y a pas le temps, mais là, il prend
le
temps.
Les sujets qu'on parle, exemple. Tellement. Tu parles de baseball, tu sais, c'est bon, parler de baseball, c'est normal. Je veux toujours parler de baseball. Mais l'angle qu'on parle de baseball, c'est pas toujours quand moi, j'ai lancé une balle. Aussi, quand j'ai fini de lancer la balle, quand j'arrivais chez nous, qu'est-ce qui arrive avec mes enfants? C'est des choses comme ça, qu'il y a des angles qui est le fun à comprendre. Puis que c'est le même, les fans, tu grandis la fanbase avec les fans, avec les femmes. Les femmes veulent savoir, ils veulent savoir le côté humain. Ouais. C'est le même, tu grandis. Le baseball, les hommes, ils veulent peut-être genre, oh, on veut lancer, on veut frapper des choses comme ça. C'est correct, mais ça, c'est juste une facette de la game. C'est une facette de notre image. Exact. Je pense que ce qui est important, les joueurs de baseball, c'est qu'on a une image, on a une personnalité qui est spéciale. Puis c'est le fun de la faire découvrir au monde à ton propre, à ton choix quand tu veux, avec les angles que toi tu veux. Pas juste par rapport à un angle de baseball, qu'on est supposé être les meilleurs dans ce qu'on fait. Oui, on fait juste ce qu'on fait, on est bon là-dedans. Mais, tu sais, on est tout croche partout aussi. Là. Il y a des choses qu'on fait qu'on n'est pas bon. Là.
Ben non, mais vous avez tous des... Tu sais, chacun a ses défauts aussi. Puis, tu sais, c'est tellement bon, je trouve, ton point là-dessus. Tu sais, Michael Phelps, pour moi, c'est... Tu sais, j'en ai parlé dans un autre podcast. C'est vraiment un des athlètes que je respecte le plus au monde. Usain Bolt, on pense que c'est les deux plus grands tous les temps olympiens, selon moi. Tu sais, il y en a eu d'autres très bons, là, mais...
Les deux plus grands athlètes de l'histoire. Là.
Ah ouais, carrément, là. C'est fou comment ils sont performants, clutch au bon moment. Tu sais, je pense que ça va être très intéressant de suivre cet épisode-là. Là, Michael Phelps, écoute, ça va être très, très, très fort, intéressant là-dessus. Par contre, il y a une chose que j'aimerais justement qu'on parle. Tu me fais allumer une cloche en même temps quand tu m'as parlé de ça. Le côté justement difficile qu'un athlète en fait peut vivre durant sa carrière. Tu sais, il y a souvent des, comme toi, on sait que tu as connu des temps extrêmement glorieux, d'autres un peu moins. Mais tu sais, on pense pas souvent au côté humain. Comment toi, tu t'es senti durant ces temps-là? Justement, la dernière fois, on n'a pas eu le temps de trop aborder ce sujet-là. C'est un peu peut-être down pour commencer le podcast, mais on va finir ça plus
non, positivement. Non, mais gars, qu'est-ce que le fun là, quand tu parles de ce sujet-là? Les questions que j'ai toujours, quand, oh, comment tu étais quand ça allait bien? Quand, toujours, tout le monde veut savoir oh, comment ça allait quand j'ai gagné Cy Young. C'est toujours des positifs.
Mais qu'est-ce qui est
le fun? Qu'est-ce que nous, que, mais qu'est-ce que, pas que c'est pas tout le temps le fun, mais qu'est-ce que tu vas apprendre d'une personne? C'est quand moi, je me suis fait tuer aux séries mondiales. Sur le, quand je me suis fait tuer par la parade de World Series, je me suis fait tuer. Tu sais, c'était là. Mais là, c'est là que tu vois. C'est tough, mais là, c'est là que tu vois comment c'est passionné, comment c'est important, leur baseball. C'est là que tu respectes les fans plus. Tu sais, c'est niaiseux, mais eux qui m'ont eu, je vois leur humain. C'est des humains. Les autres, c'est leur vie, c'est le baseball. Mm-hmm. Au baseball, au hockey, les fans au Québec, là, les fans de hockey, là, ils vont travailler le lundi. Là, c'est une bonne fin de semaine de hockey, puis tout va bien. Le lundi, plus facile.
Oui.
C'est vrai. C'est ça qui est la beauté des sports. On peut contrôler tu peux contrôler la façon que ta ville vient en tant que joueur de ta ville. Tu joues pour les Canadiens, tu as un petit peu de power de contrôler comment que ça va bien aller lundi, mardi, mercredi, quand ça va être dans le trafic. Tu vas regarder le monde avec les road rage le lundi après une game.
C'est vrai que c'est tout
en plus. Un petit peu plus, hein?
Surtout Los Angeles.
Mais je pense que si, en tant qu'athlète, on réalise qu'on a un impact de cette façon, l'impact qu'on a, c'est ça. Là, on va voir ça différemment. Mm-hmm. Mais tu sais, si le monde voit oh, juste un impact qu'on a, c'est une victoire-défaite. On a beaucoup de... On a un plus gros impact que ça.
Oui,
tu sais, moi, l'impact que j'ai eu, j'ai eu un gros impact quand j'ai joué, quand j'ai eu du succès, parce que moi, en tant que joueur de québécois, on ne se peut pas voir souvent de cette façon-là. Tu sais, oui, j'ai une affaire possible pour ça. Mais quand je me suis fait en plus, quand tu te fais avec le Mitchell Report, des choses comme ça, tu sais, là, tu fais connaître toutes les angles. Je pense que c'est pour ça qu'on a un... Mais je pense que c'est pour ça que moi et les Québécois, on a vraiment une belle histoire ensemble, parce qu'on a des hauts et des bas ensemble.
Ouais.
C'est pour ça que c'est une famille. Tu sais, moi, j'ai vécu des hauts et des bas puis avec tout le monde au Québec. Je pense que pour ça, c'est ça qui est important un petit peu de connaître c'est quoi qui est beau, comment qui est bon dans le baseball, parce que c'est les personnes. C'est pas juste c'est important en tant qu'athlète de savoir que les fans, c'est tout ce qui importe. Les fans, c'est le plus important là, dans le baseball. Il n'y a pas de baseball, il n'y a pas de game. Ça n'existe pas sans fans. Il n'y a pas rien qui existe sans fans.
C'est carrément
si
ça.
Si tu es capable d'avoir une bonne relation avec les fans, faire comprendre aux fans que nous, les joueurs, tout ce qu'on veut, c'est qu'on veut s'amuser, on a du fun, on veut jouer au baseball. C'est ça qu'on veut faire, on veut toujours faire. T'sais, le monde ne peut pas dire wow. C'est ça aux fans, c'est ça qu'on veut. Je pense que c'est ça le plus important là-dedans, c'est d'être vraiment concentré, de t'améliorer, premièrement, à. Mm-hmm. En tout cas, on parle de s'en aller un petit peu. Là, on parlait de
non, c'est correct, mais tu parlais vraiment des côtés qui peuvent être des fois difficiles d'un athlète. Comment, c'est important de parler des points positifs, mais tu sais, des points négatifs, justement, tu as parlé quand le Mitchell Report est sorti.
Mon but, les points négatifs, c'est que tu vois les vraies personnalités du monde.
Oui, exact. C'est, ben, ça fait partie de ce que tu es. Puis c'est ce qui t'a fait en sorte que tu es devenu inspirant aussi parce que ta personnalité que tu as aujourd'hui a été forgée par tout ce que tu as vécu, dont tes côtés négatifs. T'sais, ça fait partie de toi aujourd'hui. Tu ne peux pas l'enlever. Ça a forgé ton caractère puis tu es devenu plus fort comme tu es aujourd'hui. Fait que c'est ça pour moi qui est inspirant.
Hein. Tu as vu le show de Jordan?
Oui, à Netflix, oui.
Oui, exactement, Netflix, Jordan. Tu voyais que Pippen, qu'est-ce qu'il y a une affaire que je pense qu'il était un petit peu perdu là-dedans, dans la traduction un peu, c'est que Pippen a dit non, je ne changerais rien. Mais elle a raison parce que pourquoi il dit ça? Il dit, je ne peux pas dire, parce que moi aussi, je ne changerais rien. Je ne veux pas dire que tu ne veux pas faire de meilleures décisions. Mm-hmm. Ça veut juste dire que tu es heureux avec la personne qui était là, présentement. Ben oui. C'est juste ça que ça veut dire. Pippen, c'est une personne qui est heureuse, qui est rendue là. Ça ne veut pas dire qu'il n'aurait pas voulu. Jouer ou pas jouer, je m'en rappelle, c'est quoi la grosse affaire qui est arrivée, là. Mais il ne voulait pas embarquer sur le terrain ou sur le court. Ouais. Puis il avait l'air d'un gars selfish.
Ouais.
Mais même là, il dit, je continuerai, j'aurais fait la même affaire parce que je pense après ça, j'ai appris, j'ai une grosse maturité qui est arrivée après. Je suis venu un homme après. Puis c'est exact. Ça qui est le plus important. C'est ça qui est le fun de voir des affaires. Tu vois que cette personne-là a fait une erreur, puis il s'est racheté. Puis toute sa vie, cette erreur-là, elle ne sera jamais partie. Tu ne peux jamais l'illuminer, mais tu peux l'accepter. Je pense que c'est ça qui est la beauté de ce documentaire-là. C'est l'humain en arrière de ça.
Ben exact. Puis, tu sais, moi, j'avais une pensée pour toi parce que je me rappellerai toujours au moment où tu sais, t'es vraiment au top, top, top de ta gloire. Tout le monde te voit comme le meilleur lanceur du baseball majeur. T'es une idole du peuple au Québec. Et là, le Mitchell Report sort. Là, ça t'a sûrement... tu sais, je me dis, comment tu t'es senti à ce moment-là? Est-ce que tu as eu l'impression que ton monde s'écroulait ou t'as dit tout de suite, bon, on est en mode solution, qu'est-ce qu'on peut faire? J'ai envie de parler aux gens ou y a-t-il des gens qui t'ont dit non, garde ça pour toi pour tout de suite? Ou comment c'était à ce moment-là dans ta tête?
Ah, ça, c'est la pire affaire que j'ai jamais eue de ma vie. Ben, c'était tout, tu sais pas quoi faire. Premièrement, je savais pas vraiment pas quoi faire. Je savais que ça s'en venait un petit peu. J'avais parlé un petit peu, Major League Baseball, il me demandait des choses à faire, mais j'étais pas sûr exactement. Quoi faire, quoi dire, ou j'avais aucune personne à qui me tourner, je ne savais pas en tout quoi faire parce que, si le monde, tu sais, faut que tu dises que moi, je suis un gars green card. Tu sais, le monde dit, ah, c'est illégal. Là, j'ai aucune idée qu'est-ce que tu vas faire. Fait que tu ne sais pas quoi faire. Moi, je voulais parler. J'ai écrit des lettres. J'ai des lettres que j'ai écrites. J'écrivais à chaque jour. Puis, tu as honte. T'as honte de qu'est-ce que tu as fait à ta famille, des choses comme ça. Tu sais, mais qu'est-ce qui est niaiseux, c'est t'es dedans et tu sais pas ce qui arrive. On dirait que t'es un petit peu comme, pas un homme, mais tu sais pas quoi faire. T'es comme gelé un petit peu. T'es là, voyons, qu'est-ce que c'est? Parce que toute ma vie, depuis que j'ai l'âge de 3 ans, depuis que j'ai lancé une balle, que j'ai spiné une balle dans mes doigts, tu sais, même là, je lance pas puis j'ai une balle dans mes doigts puis je juste, ça me fait relaxer, tu sais. Puis dire que tout ce que j'ai fait, c'était fake, ben là, j'ai non. Tu sais, c'est mettre un nuage au-dessus, un nuage noir au-dessus des accomplissements que moi, j'ai fait personnellement. Puis en plus, on a parlé justement par rapport aux autres que j'ai fait encore pire. Le pire là-dedans, c'est que moi, j'ai mis un astérix aussi au monde, d'un doute au monde qui n'en a pas fait non plus aussi.
Exact.
Parce que là, faut que tu prouves au monde que tu ne l'as pas fait à la place qu'avant. C'est ça la différence. Je pense que c'est ça la grosse marque qu'on a faite par rapport avec Mitchell Report. Mais qu'est-ce qui est bon, c'est que ça a sorti. Tout le monde a dit, OK, c'est fini, ça arrête. On move on. On essaie de pas répéter les mêmes erreurs. Puis je pense que c'est ça. Ça m'a aidé. C'est sûr, ça n'a pas été du jour au lendemain. Là. Ça m'a pris des années. J'ai haïssé le baseball. T'sais, c'est la même affaire que tu dis, c'est une victime. Pourquoi qu'il me pointe moi? Là, tu dis, OK.
Il y en a tellement d'autres.
Pourquoi que ça arrive? Là, tu dis ça. Là, tu dis, oh, mais il y en a tellement d'autres. Mais c'est pas une excuse. C'est, oui, mais ça ne veut pas dire que c'est mieux. Fait que, tu te bats là-dedans de tout le long, depuis que tu te bats, OK, c'est correct, c'est pas correct. Tu te parles tout le temps, tu essaies de te contrôler par rapport à OK, ça va bien aller, c'est correct, je suis pas tout seul là-dedans. C'est sûr que ça l'a aidé, c'est sûr que ça m'a aidé énormément. Je pense qu'un gars comme Barry Bonds qui s'est fait pointer du doigt, il était tout seul sur son île, je peux même pas imaginer comment il se sentait. Là, ouais, même lui, après Roger Clemens.
C'est ça l'affaire, c'est sûr qu'il n'a pas avoué.
Non, mais je pense, c'est le premier qui a été pointé.
Mm-hmm.
Il ne savait pas quoi faire.
Non.
Tu comprends? Il ne savait pas quoi faire. Je mets juste dans ses souliers. Lui, mettons, j'aurais été le premier à faire pointer là, tout seul. C'est là, wow.
Ben, c'est ça.
Tu ne sais pas quoi faire. Ouais. Tu ne sais pas quoi faire. Mais ça, c'est tout le monde qui était là qui a dit non, j'ai jamais. Toute la gang qui était au. Je pense que je me rappelle, c'était à Washington qui avait été. Tu sais, c'était dramatique comme image. Là. C'était.
Ah, McGuire. sauf ça.
Mais ouais, tu sais pas quoi faire, là. Tu sais pas quoi faire. Tu sais pas qu'est-ce qui se passe, pourquoi ils font ça. Et là, voyons, sais-tu, ils vont... Tu sais pas qu'est-ce qui se passe exactement. Tu sais, ça fait peur. Moi, je suis un gars green card, là.
Voilà,
qu'est-ce qu'il veut dire? Ah, on le suspend, là.
T'entends chez vous, à Mascouche.
Qu'est-ce qui se passe? C'est ça, tu sais, tu sais pas ce qui se passe. Tu as peur. Fait que, tu sais, veux pas, c'est un wake-up call en tabarnouche, là.
Oui, mais à ce moment-là, dans ta tête, c'était-tu comme je regrette tellement tout ce qui s'est parce que je ne serais pas dans ce cirque médiatique-là.
Mais ça m'a fait du bien, on dirait.
Oui, un soulagement.
Qu'est-ce que tu veux dire? Excuse, je n'ai pas compris la question. Vas-y.
Non, mais dans le sens qu'au moment, en fait, que tu apprends tout ça, le Mitchell Report, est-ce que ça t'a fait un peu un soulagement, comme tu dis, ou c'est plus de dire ah, maudit, j'aurais pas dû le faire, là, qu'est-ce que j'ai fait là? Tu sais, la panique un peu à ce moment-là.
Non, mais je le regrettais déjà. Puis. C'est à côté-là de le regretter de la première journée, tu le mets de côté, on dirait, tout le temps. Jusqu'à temps que tu te fasses pogner, on dirait. Là, quand tu te fais pogner, puis quand tu te fais pointer du doigt ou des choses comme ça, tu dis, tu sais, je savais, mais c'est pas. Mais ça l'excuse à rien, là. C'est
ben
comme,
non, ben non.
Je savais, mais j'aurais-tu dû dire à quelqu'un?
Ouais.
Tu sais, c'est comme quand. C'est ça. Fait que c'est pour ça, moi, je me dis, ouais, mais. Il l'a avoué, ouais, mais il l'a avoué, mais après que ça a fait le poignet aussi. T'sais, c'est comme.
Exact.
C'est ça, faut pas que tu juges vraiment. C'est dur, ça, pour moi, c'est dur à juger le monde. Ils ont avoué, ils n'ont pas avoué. C'est les circonstances qu'ils ont été prises, les circonstances qui étaient. Fait que, je sais pas. Moi, je voulais en parler tout de suite, mais moi, personne qui le savait en plus. Hein. Je
savais pas
comment faire. Je savais pas quoi faire.
Tu n'avais pas dit ça? Rien à personne, tes parents, ta femme, rien. Personne n'est au courant.
Oh, non.
Aïe, OK. Fait que, mais si quelqu'un t'avait déjà dit, hey, j'ai un doute sur toi, il n'y a personne qui t'en avait déjà parlé avant?
Mettons, non, Mitchell Report, là. Mais Report, il voulait pas en parler. Je sais que MLB voulait me parler, puis c'est tout. J'ai dit non, je ne veux pas parler à personne.
Non, mais je pensais que quelqu'un, mettons, de tes proches aurait pu te dire, hey, Eric, il me semble, j'ai vu un changement dans tes performances récemment.
Oh, non.
Même pas.
Non. Mais il me voyait m'entraîner comme un malade à chaque saison morte, puis. Tu sais, je me suis tout le temps entraîné comme un malade. J'ai tout le temps essayé d'autres choses. J'ai été le premier gars à faire du yoga, le premier gars à faire du pilates. Tu sais, j'ai fait plein d'affaires, même encore. Je fais encore des choses bizarres, là. C'est ça. J'essaie de trouver. J'ai le temps une nouvelle façon de m'améliorer.
Ben oui, c'est normal.
Des fois, c'est la nutrition, des choses comme ça. Tu sais, j'ai pris un shortcut, puis j'ai regretté. Je vais toujours. J'ai regretté. On ne dira pas regretter encore.
Ben non,
c'est
non,
on
ne
veut pas dire ça.
C'est correct.
Tu sais, c'est. Mais j'ai pris un shortcut, puis j'ai pris une... C'est ça, puis c'est, comme on disait, tu peux pas l'enlever, mais je l'ai regretté tout de suite, puis je l'ai regretté quand ça a sorti, j'étais mal à... Tu sais, c'était pas le fun, je savais pas quoi faire exactement avec ça.
Ouais. T'en parles très bien
dans la
bibliographie aussi, le Game Over, ceux qui veulent lire ça, écrit par Martin Leclerc, excellent livre, je vais le montrer tantôt dans l'intro, ceux qui veulent le voir comme il faut, là. Excellent livre que tu m'avais dédicacé d'ailleurs, merci encore, puis ça a été, tu l'as très bien dit dans ton livre, qu'est-ce qui s'est passé, puis tu sais, je veux juste, on en parle rapidement pour clore le dossier, là, mais au tout début, en fait, quand quelqu'un t'a proposé ça au départ, sans mentionner personne, mettre personne en embarras si ce n'est pas mentionné, mais est-ce que ça a été dans ta tête clair que tu savais dans quoi tu t'embarquais?
Il n'y a pas personne qui me l'a suggéré. J'ai entendu du monde en parler.
OK.
Puis j'aurais demandé, hey, en as-tu d'extra? Non, je ne savais même pas c'était quoi.
À ce point-là, OK.
Je n'avais pas pantoute, là, puis je n'avais pas aucune clue ce qu'il payait non plus. J'avais aucune idée. Tu sais, c'est ridicule, là.
T'étais vraiment
c'était
un guess.
Ça aurait pu me faire mal, là. Ça aurait pu me faire, j'ai aucune idée. Là.
Mais t'en revenais d'une blessure.
C'est pas comme j'avais des docteurs, mon genou.
Ouais.
C'est pas à cause des docteurs, c'est pas comme j'avais des docteurs à l'arrière de moi qui essayaient de, tu sais, c'est du tout, là. C'est vraiment rookie, là.
Ouais.
Vraiment le rookie move, là. C'est aucune idée, là.
Puis le pire, c'est que les gens oublient, mais tu sais, c'est important de la mentionner que tu avais eu quand même des très bons moments avant ça. T'sais, c'est pas ça qui t'a procuré ta balle rapide dévastatrice. C'est sûr que ça l'a contribué à peut-être te donner un peu plus d'étoffe, là, mais peut-être. Mais à la base, dans tes premiers starts que tu avais eu, ta balle était excellente, ton change-up.
J'ai lu le temps assez fort, là. J'avais 15 ans, j'en sais à 94-96 000 à l'heure. Fait que,
c'est ça.
C'est pas ça. Écoute, c'est l'endurance. Moi, je sais qu'est-ce que ça a aidé. D'après moi, ça m'a aidé un petit peu plus l'endurance, m'a renforcé un petit peu. Mais qu'est-ce qui est arrivé, ça m'a usé beaucoup plus vite.
Affaibli plus vite, oui, c'est ça. Tes blessures, il y en a eu plus après, là, je me rappelle.
Tu sais pas, là, on sait pas pantoute, c'est quoi, j'ai aucune idée qu'est-ce que je prenais, là.
Aïe, aïe, aïe.
On ne sait pas c'est quoi.
Mais tout le monde en prenait dans ton vestiaire avec les Dodgers. Est-ce que je lisais dans ton livre?
Non, on ne voyait pas ça au vestiaire. Non, non, non. Non, j'ai juste dit, okay. J'ai dit qu'il y avait du bon. Il y a beaucoup de personnes qui prenaient quelque chose pour essayer de s'améliorer, ouais. Que ce soit sleeping pills, que ce soit des antidouleurs, des uppers, des downers, des stéroïdes ou des n'importe quoi. Là, qui avait tout le temps. Tout le monde essayait de trouver quelque chose pour.
Ouais, okay. Get an edge, en fait. Ouais, OK. Wow. Okay. Ben, écoute, ça clarifie vraiment plus des choses parce que, tu sais, les gens jugent, mais connaissent pas tout le temps. Fait que c'est pour ça que je voulais vraiment qu'on aille.
Je n'ai jamais vu d'investisseur. Ouais.
Ce qu'on pense quand on ne connaît pas, c'est que tu sais, t'as vu un gars dans le vestiaire, t'as proposé ça, non, ou un docteur, tu sais. Puis tu sais, c'est comme ce qu'on imagine quand on n'est pas dans le game. Mais c'est pour ça que c'est important que tu en parles.
La première fois, je pense que j'ai entendu parler de tout ça, que ça existait dans le baseball, je pense que c'était dans le 3A. À Albuquerque, que j'ai entendu des joueurs qui en parlaient de ça.
Ouais. Wow, mais tu avais sûrement remarqué fois, j'ai entendu aussi, parler. Comme Barry Bonds, c'est évident, physiquement. Là,
non, parce que je regardais pas vraiment pour ça.
Là. OK.
Je ne savais pas, on ne parlait pas de ça. C'est pas comme si on dirait, c'était pas un sujet qu'on parlait. Là.
Ben non, je comprends ça.
Qu'on parlait, là, c'était pas comme, tu sais, c'est pour ça que le monde dit, il y a-tu un pourcentage? On ne sait pas, on n'est pas tout ensemble. Là. C'est pas.
Les rapports le diront.
Mais non, c'est ça, tu sais. Il n'y a pas vraiment personne, on ne sait pas. Y a pas vraiment, c'est vraiment dur à dire. Là.
Wow, ben c'est ça. Fait que dans le fond, c'est bon à savoir aussi. Je me suis toujours dit, qu'est-ce que toi, tu as senti comme effet positif que ça t'avait apporté de prendre ça? Est-ce que c'est, comme tu dis, c'était un peu d'étoffe peut-être d'améliorer ton endurance? Mais tu sais,
encore. Non, parce que là je suis encore en meilleure forme puis j'ai mieux fait.
Ben oui, t'as l'air en shape, puis plus en shape.
Ben oui, c'est ça. Tu sais, c'est. Il n'y a pas de positif, c'est un shortcut. Mais voilà, quand tu fais un shortcut, vraiment, tu n'apprends pas comment tu as la bonne nutrition, des choses comme ça. Fait que tu payes à quelque part.
Exactement. Puis, tu sais, au bout de la ligne, ça t'a fait payer vers la fin de ta carrière parce que, comme tu disais dans l'autre podcast, c'est que ta carrière a été plus courte, dans le fond. Fait que tu aurais pu durer peut-être plus longtemps, puis d'une manière peut-être plus saine, ta carrière également, là.
Oui, ça aurait fait moins mal, là. J'aurais moins mal partout.
Oui, bien c'est ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Je me souviens de t'avoir rencontré en 2012 à la sortie de ton livre. Puis je me souviens qu'un partisan qui t'avait demandé, Éric, comment tu te sens? Puis tu avais dit, tu sens que ton corps est comme le corps d'un vieillard dans un corps de gars de 40 ans, mettons. Là, est-ce que tu te sens mieux aujourd'hui ou tu as encore des courbatures lorsque tu te lèves le matin?
Ah non, j'ai toujours mal. Toute la journée. Je te le montrais pas, mais là, à terre, que moi, je me couche sur le dur, à terre, parce qu'à cause de mon dos, des choses comme ça. Quand je vois ça, j'ai ça ici, il faut le temps que j'aille sentir mes jambes.
Ah, ouais.
Aïe, aïe. Mes jambes, que je sois installé assis comme il faut, pas que mon dos aille trop mal. Là.
Mais tu t'entraînes beaucoup affaires, en hein. plus. C'est
des... Ben oui, il faut que je m'entraîne actifs. Le plus possible.
Ah, wow, mais ça doit être dur quand
t'as mal. C'est ça qui est plus dur, là, parce que tu arrêtes de prendre des pilules pour avoir le mal, tu as tout le temps mal, mais là, pour arrêter d'avoir mal, tu as commencé à t'entraîner, mais il faut t'enlèves le mal.
Aïe,
fait que là, si tu t'entraînes pas, tu continues à avoir mal. Fait que ça, c'est un cercle vicieux. Fait que faut trouver un bon élément. Puis c'est ça que j'ai essayé de faire les deux dernières années, de trouver une bonne façon de la bouffe, d'entraînement. Mes entraînements que je fais, mes stretching, tout le kit. C'est ça que je fais depuis que j'étais avec Jessen. C'est ça qu'on fait à la maison tout le temps. On essaie de changer les nouvelles façons de s'entraîner. Tu sais, c'est comme, je parlais de mon podcast. Et mon podcast, c'est des choses comme ça qu'on parlait. On parlait des choses des nouvelles façons de s'entraîner, des nouvelles façons de penser. On va parler de la politique. On va parler des joueurs avec leur argent, quand ils en ont, quand ils en ont plus, qu'est-ce qu'ils font quand ils vont commencer au début. Tu parles d'un temps aux jeunes qui arrivent là, ils font de l'argent de bain. On parle de toutes les choses, le suicide rate, des choses comme ça. Tu sais, c'est ça qui est le fun de parler. Tu sais, on parle tout le temps, quand on parle d'Éric Gagné, on va tout le temps revenir à Mitchell Report comme tu fais. C'est normal, c'est la façon la plus facile à faire, c'est de trouver les gros highlights, puis on va trouver ça. Mais moi, je pense que c'est ça qui est le fun. Avec le nom que j'ai eu, moi, le highlight que j'ai eu dans ma carrière, j'ai une plateforme que je peux passer au-dessus de ça, pas obligé de parler de ça. Je pense que c'est ça qui doit être le fun.
Oui, en plus, tu as les contacts également, donc ça va t'aider pour avoir des bons invités et aller chercher dans les creux des sujets fort intéressants aussi. Écoute, en terminant, c'est un côté plus sombre-là, parce que je veux vraiment, il y a tellement de positifs à parler avec toi, puis je veux que le podcast tire plus vers le positif, mais je t'ai déjà entendu parler dans une entrevue que tu avais eu de la misère à afficher ton Cy Young pendant longtemps. Est-ce qu'aujourd'hui, tu l'affiches fièrement, ton Cy Young, puis tu n'as pas peur de le mettre dans ta maison?
Ah oui, j'affiche fièrement, oui. Ça m'a pris du temps, écoute. Ça m'a pris du temps à accepter que it is what it is. Puis people will like you or they won't.
Ah, exactement. Mais là, tu t'assumes à 100% puis tu es content de
l'avoir. Je m'en fous. Je m'en fous qu'est-ce que le monde va penser.
Ben oui, c'est pour toi, là, il est chez vous.
Mon Cy Young, hein? S'ils veulent avoir mon Cy Young, prenez-les.
Ben oui, mais écoute, tu le mérites, Eric, tu as tellement travaillé fort.
Ça ne me dérange pas pantoute, parce que je sais ce que j'ai fait. J'ai même pas besoin du Cy Young.
Là. Non. Écoute,
je m'en fous, là, c'est juste une plaque. Là.
C'est tellement vrai.
Je sais que pour qu'est-ce que j'ai fait, là, puis les joueurs le savent, qu'est-ce que j'ai fait, j'ai été le meilleur releveur cette année-là. Fait que,
pendant quelques années.
Il y a un petit peu moins de succès là, cette année-là. Mais ouais, pour moi, c'est ça. Tu sais, c'est comme le monde me demande, hey, vas-tu dans. Tu penses que tu as triché? Gars? Si vous le voulez, prenez-les.
C'est carrément ça.
C'est ce que tu vas faire avec, là. Donne-leur au deuxième, au troisième, au quatrième. Enfin, demande-leur s'ils le veulent.
Non, je te le laisse. Tu le mérites trop pour ça.
Non, mais c'est comme les Dodgers. Non, mais c'est du mal au deuxième. C'est qui l'année passée? Tu pensais que les Dodgers, c'est vrai, la série mondiale de 2017 là, après ça? Ah, oh, donnez-leur le trophée. Non, ils veulent le gagner.
On le veut pas. Ah oui, j'ai entendu parler de ça aussi. Qui veut un trophée ou juste la gravure sur le trophée Dodgers en 2017? Mettez un astérix, un point d'interrogation. Non, mettez pas
rien,
les Astros.
Mettez rien. Ben d'accord. C'est ça pas l'histoire. Pourquoi? Pas ça d'astérix, c'est bon. C'est pour ça que ta job, en tant qu'amateur, en tant qu'un gars de podcast, ta job, c'est de parler de ça. Ça va être historique, c'est ça que ça va être. T'as pas un astérix, puis avec l'histoire?
Exact.
L'histoire va être là. Fait que l'histoire va se dire.
Les gens vont la raconter.
C'est ça. Puis c'est correct. Puis gars, exactement comme avec qu'est-ce qui se passe avec le Mitchell Report, avec Barry Bonds, puis tout. Ils vont l'être dans Hall of Fame quand ça va être le temps.
Ouais, les années filent. J'espère qu'il ne va pas être trop tard dans son cas, parce que comme on disait dans l'autre podcast...
De toute façon, même s'ils ne sont pas là avec le 5 ans ou le temps qu'on le tend, là,
les gens s'en
rappellent. Ils vont se faire mettre. C'est ça, c'est des Hall of Fame de toute façon.
Ah ouais, tout le monde sait le record de coups de circuit. Quand même, tu dis comment il a été fait. Le premier nom qui te vient en tête, c'est Barry Bonds. Puis tout le monde le sait, que tout l'impact qu'il a eu pour le baseball.
Tu peux dire pour toi, la personne qui est le vrai home run king, c'est Hank Aaron. C'est correct.
Correct. Chacun son opinion. c'est
correct. Tu as le droit de dire ça. C'est correct. Tu peux dire que c'est lui, c'est incarnant, c'est 70. C'est correct.
Oui, mais ça reste que Barry
Bonds. C'est pas une astérix, ça monte. Oui, oui. Mais qu'est-ce qui est le fun, je pense, avec le baseball, c'est que l'histoire est belle. Toujours une belle histoire. Peut-être la raconter comme on en parle. On parle de stéroïdes, on parle de. Pas de stéroïdes, mais on parle du Mitchell Report, on parle de. On parle de tout. Dans le fond, c'est ça qui est le fun. Là. C'est l'histoire de ça. C'est pour ça que, pour un astérix, t'as rappelé.
Écoute, tu m'ouvres la porte. Ça a fait une fleur, je pense, à tout le monde. On va parler plus d'actualité sportive, là, mais tu as parlé des Astros. Je pense que tout le monde votait pour les Rays de Tampa Bay cette année. Pas juste parce qu'ils sont peut-être les futurs Expos.
Moi, j'aurais tellement aimé ça, voir les Astros avec
Oui, c'est vrai. Ouais, ça aurait été incroyable.
Électrique, hey.
Wow. Ouais, j'avais trop peur que les Astros gagnent pour ça, fait que je prendrais pas de chance. Rien contre les Dodgers, mais mettons qu'ils ont une légère réputation de choker au mauvais moment. Fait que on va espérer que cette année, ça se passe mieux. Justement, qu'est-ce que tu penses de tes Dodgers qui sont en série mondiale encore une fois cette année? Penses-tu que ça va être la bonne, enfin?
Oui, c'est l'année. Là. Je pense avec ce qui est arrivé, là, puis ils sont tellement... Ils auraient-tu gagné avant, mais je pense avec l'année qui était bizarre en 2020 avec le... Avec Tiscari, je pense que c'est avec leur nom, avec les Dodgers, là, je pense que c'est l'année des Dodgers. C'est le style d'année que les Dodgers méritent de gagner, je pense, parce qu'ils ont travaillé fort. On parlait de Houston qui a gagné, que peut-être les Dodgers. Les gars, si les Dodgers gagnent, ça va aider le baseball au complet. Ça va aider le baseball partout. Puis ils en ont besoin, surtout à Los Angeles. Le monde en Californie, présentement, le monde en a besoin. Ouais, je pense
c'est
que ça va être
tellement dommage de voir que personne ne peut voir ce match-là en plus. Tu sais, on sait qu'il y a 11 500 personnes au Texas, mais ça reste quand même qu'il n'y a personne à LA qui est capable de voir le match. On sait que ça aurait été plein à côté, 55 000 personnes. Tu sais, c'est frustrant, j'imagine, pour un partisan de l'équipe ne pas pouvoir encourager.
Mais c'est frustrant, mais gars, comme moi, je disais, là, le monde dit « Ah, c'est frustrant ». Ouais, mais gars, là, tu réalises comment c'est beau, comment on est chanceux d'avoir une game de baseball live.
On va s'en ennuyer. Mais on va l'apprécier encore plus après.
Exactement. Fait que tu sais, des fois, tu perds quelque chose pour réaliser que tu vas l'oublier. Exactement. Je pense que c'est ça qui est le fun. Des fois.
Pas toujours comme ça.
C'est ça.
Ouais, c'est
ça.
Non,
mais je pense que c'est ça qui va arriver avec les fans. Puis si les joueurs sont intelligents, les MLB sont intelligents, mais ils vont ramener un produit qui est vraiment... pour les fans, puis ils vont voir aussi les fans qui vont s'ennuyer de la game comme les joueurs s'ennuient des fans énormément. Ah, tu vois, c'est là l'amour du baseball est là. Le gros, tu vois, tout ce que tu peux montrer dans l'industrie, là, qu'est-ce qu'on s'ennuie, nous autres, c'est des fans. Mm-hmm. Puis qu'est-ce que les fans s'ennuient de venir nous voir? C'est la pureté du baseball. Je pense que c'est l'année des Dodgers pour ça. C'est tellement. Je pense que ça va... tout le monde va avoir gagné. Ça fait Boston, ils ont gagné. Chicago ont gagné. Les Dodgers, c'est le temps, là, je pense.
Ah, tellement, oui. Je le souhaite sincèrement. En plus, avec Mookie Betts, un gagnant qui arrive dans cette équipe-là, ça apporte un petit boost supplémentaire. Comme j'ai eu Marc Griffin au dernier podcast, on parlait justement de la série mondiale qui s'en venait, parce que c'est quand même la thématique de la semaine. C'est pour ça que je te reçois, j'ai reçu Marc Griffin. Puis ce qu'il me disait, c'est, tu sais, oui, Mookie Betts a eu des difficultés. Au niveau du bâton, dans les séries, il n'y a pas une grosse moyenne, mais son impact au niveau de l'équipe, comme on a vu au dernier match.
Moi, je suis pas d'accord avec toi, puis Marc, par exemple.
non, mais c'était mon opinion.
Il fait toutes les balles partout, il y a
exactement. Même pas beaucoup de souliers de battre. Et ça, je disais à Marc aussi, j'ai dit, oui, c'est vrai que son impact au bâton n'est peut-être pas super là en ce moment, mais son impact défensif, c'est incroyable. Des catchs spectaculaires, comme on a vu au dernier match contre les Braves. Mm-hmm. Écoute, c'était fou, là. Il a volé un circuit, il a volé deux autres gros catch. C'est vraiment un gars complet, un joueur complet. On a vu ses deux vols de but plus le marbre à l'autre match dans la Série mondiale. Quel joueur de baseball, pour vrai, c'est rafraîchissant à voir. Puis un gars comme Cody Bellinger, espérons qu'il est sorti de sa torpeur un peu, parce que c'est un gars qui est plus l'ombre de ce qu'il était l'an dernier. Espérons qu'il va rester comme qu'il est présentement aussi.
Ah, moi, je ne m'inquiète pas qu'eux autres, voyons. Ces joueurs-là, c'est des joueurs là, c'est des joueurs que tu ne verras pas dans une équipe ensemble. Un Bellinger, un Mookie Betts, All-Star. Un Seager. Seager, on voit quelque chose de spécial. Le Seager, c'est la première année qu'il est en forme. Là. Tu vois le joueur, le genre de joueur qu'il est.
Quel joueur.
Wow. C'est une personne qu'il va tout le temps. Qu'est-ce qu'il fait? C'est une personnalité qui reste under the radar. Mais c'est un joueur là, qui est vraiment solide en arrière-cour. Puis, hey, un bon. Il fait passer un petit peu un John O'Rourke dans le temps avec du pop, par exemple. Bien plus de pop. Là.
Il y a du pop.
Mais, c'est une belle équipe. Je pense que c'est le temps, là, les Dodgers. C'est sûr qu'ils le méritent. Là. Ils sont fait voler une couple de fois. Ouais. Ils auraient dû gagner. Ça fait 2, 3, 4, 5 ans en ligne. Ça fait quoi, 10 ans en ligne qu'ils gagnent, je pense? 8 ans qu'ils gagnent la division, c'est dû. Ils ont payé le 12, mettons.
J'ai pensé à ça qui ne se rendrait pas à cause du 3-1 qu'ils perdaient contre les Braves dans la série division. Ouais. Ça a passé proche. Heureusement, ils sont revenus dans la série. C'est peut-être justement le fait qu'ils sont revenus avec 4 victoires consécutives, incluant le premier match de la série mondiale. Ça va peut-être donner le petit boost supplémentaire justement à remporter cette série-là, selon moi. Le fait qu'ils se sont unis tous ensemble. C'est une belle équipe à avoir joué. Mon seul point d'interrogation, que je pense que tu es le gars le mieux placé sur Terre pour le comprendre, Kenley Jensen. On sait qu'il y a eu quand même des difficultés. C'est le closer des Dodgers. Dans les dernières années, peut-être des sabotages au mauvais moment. On dirait qu'il n'y a plus la confiance de l'entraîneur d'arriver qu'on a vu Urias qui est arrivé en relève pour closer la série contre les Braves. Est-ce que pour toi, c'est un vote de non-confiance pour Jensen?
Quand vous autres, quand vous regardez de l'extérieur, vous voyez le temps qu'il n'y a pas de communication. Les deux personnes, ces deux gars-là, là, ils veulent juste gagner. Ils se foutent complètement. Là, c'est qui va lancer en 9e manche. Ouais. Moi, qu'est-ce que je me dis? Même affaire avec Kershaw. Kershaw, il a lancé un débuté. Moi, je me suis dit au début, je regarde, Kershaw, si tu pars 6 ou 7 manches avec un point ou deux, là, dans ses roues complètes, t'es content d'avoir une manche. Hey, tu peux le faire partir une manche, tu peux partir une manche à chaque deux matchs. Tu peux partir, tu reviens les Tampa Bay à l'envers tout de suite.
Ils
feraient ça. Ah oui, mais ils feraient ça. C'est ça qui est le fun d'avoir un gars comme Kershaw, un gars comme Kenley. Il veut juste aider les Gibbs à gagner. C'est pas un problème parce que je pense que qu'est-ce qui arrive là au bout du fil, il faut que tu dises, gars, ces trois joueurs-là, là, ces trois personnes-là, Roberts, Kershaw puis Kenley, c'est les Dodgers. Ça représente les Dodgers des 7, 9, 10 dernières années. Puis ils vont gagner avec ces trois personnes-là. Je pense que qu'est-ce qui va arriver, c'est qu'ils ont une bonne conversation, les trois. Puis ils savent qu'ils veulent gagner. C'est priorité numéro un, c'est de gagner. Puis ils vont mettre les meilleures pièces, les meilleurs pions dans la meilleure situation possible. Je pense que Kenley, s'il est capable de closer avec des droitiers ou des gauchers ou le bon match-up, il va closer. Puis si les match-ups ne sont pas bons, mais il va lancer la 7e ou 6e manche. Il va avoir des retraites. Je pense que c'est ça qui est c'est ça qui fait la beauté des Dodgers. Ils sont vraiment versatiles, pas par rapport à jouer partout, en tant que personne. C'est des personnes qui veulent gagner. C'est des gars qui des buy-in to the Dodger way. C'est ça qui est le fun. Les Dodgers sont. Ça faisait un 7, 8, 9, 10 ans que les Dodgers s'en allaient un petit peu des vieux Dodgers. Là, tu vois les Dodgers, le bleeding blue, je pense, c'est la façon qu'ils jouent. pour l'équipe en premier, puis ça fait longtemps qu'il travaille là-dessus, puis c'est ça qui va arriver. Kershaw va lancer quand il va se faire donner la balle, puis que ce soit en 9e manche, qu'il soit en relève, ça se peut que ça soit le gars qui fasse le dernier retrait en 7e match, au 7e match. Ça ne me surprendrait même pas.
Moi non plus. C'est la recette des Rays en plus. On a vu l'année passée, les Rays commencer avec Sergio Romo, qui est un closer. Ils ont commencé le match, ils ont inversé avec le starter en fin de match. Ils ont apporté.
Kenley pourrait être un opener.
Pourquoi pas? T'sais, ça va tout fucker.
Ça arrive Kenley, après ça, tu mets Urias, après ça, tu reviens avec Kershaw et Mara.
Ouais.
Tu n'as même pas utilisé personne encore, là?
Ben, on a vu hier essayer ça, cette mentalité-là. Là. Il a quand même mis, ben, excusez, hier, je veux préciser aux gens qu'on est présentement le 22 octobre, donc le podcast va être diffusé lundi suivant. Fait que il va y avoir quelques matchs de. Peut-être que la série mondiale va être déjà remportée, mais c'est important.
Ouais,
elle
va être déjà fini.
Ouais, on le souhaite, Dodgers. Mais ça reste quand même qu'on pense qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer dans cette série-là, puis ça va être. Vraiment une série de coachs. Je pense que Kevin Cash et Dave Roberts ont tous les ingrédients. Chacun de leur côté a peut-être plus d'ingrédients du côté des Dodgers pour remporter ça.
Excuse-moi. J'ai regardé une vidéo des Dodgers, justement.
OK, je pensais que c'était Slapshot en fond d'écran. Ça sonnait comme moi. Y en a encore.
C'est un chose québécois, c'est ça.
Ouais,
regardez par les chemins des Dodgers.
Ça m'a fait vraiment penser à Slapshot pour ça.
c'est un chose MLB, une comédie MLB. Puis le gars, il parlait en français en arrière, une traduction pour le québécois.
OK, wow. ça avait de l'air drôle. ouais, écoute, changement d'à propos, justement, on a parlé de l'actualité un peu plus sportive. Penses-tu, justement, ben, tu sais, on a parlé en fait de Kenley tantôt, comme quoi, que tu sais, ça peut être difficile pour un closer. Toi, tu l'as vécu, les bons comme les mauvais moments. C'était quoi vraiment, je pense, ta force, à toi, c'était le mental, mais t'avais-tu un truc, quelque chose que tu peux donner à un jeune closer qui nous écoute pour rester focus quand il embarque dans un match, style un match 7, un match important? T'embarques sur la butte, t'as des partisans qui te regardent, tu veux pas te choquer, t'as le cœur du line-up, t'as deux retraits, les buts remplis. Comment tu fais pour être béton dans la tête?
La dureté du mental.
La dureté du mental.
Quand t'as dit ça tout à l'heure, je pensais juste aux boys. Aussi.
Les boys, Slapshot, ah ouais, donc, on
exactement.
En parle.
C'est vraiment ça. le pire, c'est que c'est vrai, tu fais juste la façon que tu penses au save. Tu penses, tu arrives là, OK, ça fait 8 manches que je travaille fort. Tout ce que j'ai besoin, c'est d'avoir 3 retraites. Tu essaies de penser ça plus simple que c'était vraiment. C'est pas, oh, j'arrive là pour sauver les meubles. C'est pas ça que tu penses. Tu penses pas qu'il y a 50 000 personnes. Tu fais juste dire, hey, ça fait 25 000 fois que je fais ça. J'ai lancé des balles toute ta vie. Je lance une prise, 2 prises, 3 prises, 3 retraites, short, tout ça. Ben voilà. Tu essaies de simplifier les choses. Tu essaies de rendre ça plus normal. Puis pour nous autres, c'est normal aussi, ça fait longtemps qu'on fait ça. C'est juste que si on commence à penser à toutes les choses à l'extérieur de ça, nous, quand on lance, quand moi je suis le monticule, je pense juste à faire sentir la balle sur mes doigts. Je pense pas à d'autres choses alentour, qu'est-ce qui se passe. Ça. Je pense pas à la senteur de la bière. Oui, je le sens quand je respire, quand je relaxe.
Les hot dogs.
Mais après, les hot dogs, la bière, le gazon. Ouais. Mais quand je commence, OK, j'ai une job à faire quand je vais lancer la balle, je peux juste penser à sentir la balle sur mes doigts. Tu refocuses tout de suite. Fait que t'es pas focusé à 100% tout le temps en tunnel. C'est juste que quand tu viens pour lancer, mais tu te concentres en tunnel, ça te relaxe.
Excusez, ça m'a fait penser.
Là, tu vas pouvoir penser.
Ah non, mais c'est ça. Tu m'as dit sentir la balle sur les doigts, j'avais pas le choix. Faut que je file la balle en ce moment. Celle-là, ouais. C'est Spring Training 2018 en Floride, ceux qui veulent voir. Yep. Une fausse balle que j'avais captée d'une manière spectaculaire, un plongeon, c'est pas vrai. T'es juste tombé au bon moment. ouais, c'est ça. Oui, non, écoute, ça me fait justement penser, tu parlais de la pression qu'un closer peut ressentir, de la façon de gérer son mental à ce moment-là. Toi, tu as vécu deux uniformes glorieux, les Red Sox puis les Dodgers. Je me souviens encore de quand tu sortais de la clôture avec les game over partout dans le building. On entendait ta toune naturellement. Welcome to the jungle. ça rappelle des souvenirs. Par contre, quand tu embarquais au Fenway Park, je sais que c'était dans une saison peut-être un peu moins que des bons souvenirs pour toi, tu as quand même réussi des saves pour les Red Sox. C'est quoi le feeling d'un releveur, les deux différences, je pourrais dire, entre le Dodger Stadium et le Fenway Park quand tu embarques, tu sors de la clôture?
Mais gars, moi, je vais te dire, quand moi j'embarquais avec les Dodgers, avec le Game Over, comme tu disais, le Welcome to the Jungle, c'était incroyable. Puis, je vais te donner une anecdote. C'est quand j'allais, j'ai vu Mariano Rivera avec Enter Sandman. C'était incroyable.
Ah, c'est fou, ça.
Trevor Hoffman, Hell's Bells à San Diego, malade.
Les frissons.
Ça, c'était vraiment exactement. Puis, Pablo Bond à Boston avec Dropkick Murphy. Ça, c'était clutch aussi. Fait que, j'ai tout vu ça. Là. C'est vraiment quelque chose. C'est un spectacle incroyable de voir le closer dans ce temps-là. C'était un gros deal. Là. C'était le fun. C'était un gros spectacle quand tu arrivais là en 9e manche. Là, c'était un petit peu moins gros à cette heure. Ça fait longtemps que je n'ai pas vu non plus. Là. Mais
il n'y a plus de gros
avant,
clôture, comme
énorme,
dans ton temps.
Non, c'était pas un spectacle. C'était différent. T'sais, on dirait que la valeur de ça, sont... je sais pas si c'est à cause qu'il y a moins de closer qui change tout le monde. Il n'y a pas assez de personnes qui ont d'identité par rapport au closer parce qu'ils utilisent tellement de monde différent. Peut-être que c'est ça, je ne sais pas.
Parce
qu'avant, il y avait des Brad Lidge, tu avais
Francisco Rodriguez.
Des bons closers. Ben oui, Francisco Rodriguez. Tu avais des entrées incroyables, c'était le fun. Là.
Ah mon Dieu, c'était fou. Dans ton temps, je me souviendrai toujours de ça. C'est écoute, juste Mariano Rivera et Trevor Hoffman, c'est les deux plus grands au niveau nombre
Hell's
de sauvetages.
Bells. Fou, Hell's Bells, là, à San Diego, là, si tu aurais vu ça, là, parce que c'était le nouveau stade en plus, le
Pat
système
Cooper.
De son est nouveau. Ouais. Tu avais le gros doom, le gros Hell's Bells. C'était incroyable.
Wow, écoute, je te dis, c'était une belle anecdote, j'ai vraiment eu frisson. Mais toi, t'avais-tu ta toune quand tu rentrais au Fenway Park ou t'avais changé de toune?
Welcome to the Jungle. Oh non, Fenway Park. J'avais Welcome to the Jungle. Tu t'étais tout croche. J'avais une numéro 83.
Ouais,
j'arrive
c'était bizarre.
J'avais une nouvelle toune, je pense.
Ah ouais, OK. Il n'y a rien qui était pareil. Non, mais c'est niaiseux. C'est superstitieux, un pitcher.
Exactement. Le pire, c'est que c'est vrai, tout était différent.
Wow. L'atmosphère dans le building, c'est quoi? Tu as trouvé vraiment différente, les deux?
Boston, on dirait que ça vibre plus. C'est beaucoup plus petit. C'est plus, c'est vraiment plus, on dirait que c'était chez vous un petit peu plus.
OK.
Tu as vraiment l'histoire, la vieille histoire de Boston, tu la sens.
L'odeur est spéciale.
Tu sens la vieille bière, là, que ça fait longtemps. C'est la bière qui a tout rendu les... c'est même pas l'eau qui a rendu les estrades qui viennent un petit peu... parce que là, c'est tout en métal, là-bas. Là.
Oh, et c'est vieux.
Tout en métal, là-bas, ça vient, ça sent le vieux métal avec la comment on appelle ça, non? Avec de l'eau du métal, c'est
la
rouille.
La rouille,
ouais. Ça, c'est fait avec la bière, la rouille de bière.
Ah, c'est de la rouille de bière au Fenway Park. Enfin, je vais prendre cet extrait-là
bière,
pour le podcast.
Ah, ça sent la rouille de bière, ça sent différent, c'est pas pareil.
Wow!
Tu sens ça, tu sens un petit peu de vomi partout.
Mon Dieu, ça donne le goût d'y aller.
Ah, ça sent le stench. Il y a un stench à Boston. Même à Chicago, là, tu sens, t'arrives là, tu sens que ça fait longtemps que c'est là. T'sais.
Aïe, aïe. Mais t'as déjà closé une game dans le vieux Yankee Stadium, toi? Pas pour les Yankees, mais je veux dire, as-tu déjà closé une game
j'ai
là-bas?
J'ai lancé. Non, j'ai pas closé une game.
Ah, mon
j'ai
Dieu.
Lancé.
Puis, comment c'était?
Dans Milwaukee. J'ai lancé, mais je pense pas que j'ai closé une game.
Comment c'était le feeling beau, dans le vieux? Ouais,
ça c'est plus grand, c'est la différence. Ça, c'est grandiose. L'autre, c'est plus petit.
C'est vrai qu'il fait moins haut.
C'est fait intime. Puis l'autre, il fait plus en bol. Wow. Puis l'autre, il fait plus, on dirait, c'est plus sur le dessus. À Boston, t'es vraiment là, c'est petit, là, avec le gros Fenway, le gros Green Monster.
Ah,
c'est vraiment petit. Les fans sont vraiment sur le top. Il y a un stade aussi à Détroit, dans l'ancien de Detroit Tigers. Ça fait ça de même un petit peu. C'est vraiment haut en ligne droite.
Wow.
Ça, c'est vraiment les fans on top of you. Ça, c'est une affaire à Montréal, c'est ça qu'on aurait besoin. Un vieux stade.
Il aurait dû garder le stade
à Montréal. Mais non, mais tu le mets dans le centre-ville, mais super petit.
Ben, c'est peut-être ça la nouvelle. Tu sais, je me souviens que dans le dernier podcast, on était au début de la pandémie, au milieu, si on veut, en plein été. Puis tu m'avais dit, je pense qu'une des choses pour révolutionner le baseball, ce serait peut-être trois petits stades, exemple au Québec, qu'on puisse peut-être avoir des plus petits stades, puis que les gens peut-être de différents endroits pourraient y aller. Parce que ça ne va peut-être plus rien donner d'avoir des 50 000 places dans le building si on ne peut pas le remplir à pleine capacité et ça a l'air vide. Fait que rendu là, c'est... Mais en même temps, si tu as 11 000 places, tu ne pourras pas avoir 11 000 spectateurs non plus. Ça va être trop collé. T'sais. Fait que rendu
non,
là,
mais
ça va être quoi
faire,
la nouvelle?
Tu peux faire, exemple, tu peux faire des... Non, mais tu mets dans un stade, là, tu peux avoir des buildings alentour. Là. Tu peux une façade au complexe, il y a des appartements. Tu n'es pas obligé d'avoir des estrades partout, là. Tu peux faire un vieux Ebbets Field, des anciennes, tu sais. Tu peux faire quelque chose. On pense toujours de la façon où on a un stade. Tu as besoin d'un terrain.
Mm-hmm.
Pas, les estrades, là, oublie les estrades, là. Tu n'es pas obligé d'avoir des buildings avec des beaux appartements en arrière.
Oh my God, tu me fais rêver, là. Imagine.
Mais qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce qui est le fun? C'est en 10-15 ans, tu peux le changer, puis ça fait un gros parc en dedans. Quelque chose que tu peux le faire changer en dedans de 15 ans. puis tu fais changer, puis tu fais. Là, tu peux faire grossir chaque environ. Mettons, tu vas là, on va dans le centre-ville, exemple, là. On fait un 10-15 000, mais les appartements, puis quand tu es fini avec le stade en 10-15, mettons dans 15 ans, là, tu fais un autre stade, mais là, ça revient une autre place dans le centre-ville ou dans les environs. Tu fais juste de façon comme ça, puis tu es prêt. Parce que là, le stade olympique, on ne peut pas le crisser à la terre. Là. Tu ne peux pas rien faire avec ça.
C'est
là.
Le rêve de bien du monde.
Non, mais tu ne peux pas, ça coûte trop cher.
Hey, non, oublie ça. Là.
Puis qu'est-ce que tu fais avec le terrain après? Tu sais, c'est
la qu'on se pose la question.
Ça va coûter 2 milliards, là, briser ça. Tu sais, puis, mais là, il n'y a plus rien à faire. Là, tu as tellement de belles. La location que tu peux avoir, là, tu mets ça à terre, tu fais un petit stade. Puis dans 15 ans, là, tu sors de petit stade, mais c'est un beau parc. Fait que tu es déjà prêt à faire quelque chose avec l'intérieur. Fait que tu peux bouger à chaque fois. T'es pas obligé d'avoir 75 000 personnes. T'es pas obligé d'avoir ça, des spectacles. Là, t'aurais des spectacles. Après ça, ça peut être un beau affaire de spectacle. Ça peut être un centre de n'importe quoi. Là. Ça peut être n'importe quoi. Le monde va vouloir vivre là. Ça va être dans des buildings.
Tu me fais penser, là, c'est un peu comme dans le fond, Rogers. C'est pas dans
non, t'as l'hôtel, donc. Rogers Center, t'as l'hôtel là, mais tu sais, le monde, c'est le fun, mais tu fais ça dans un centre-ville. T'as pas beaucoup un gros ouais. terrain. Là. Un terrain de baseball, c'est pas gros. Là, t'emmènes le vieux style de baseball. Là.
Ah, ça me fait rêver, pour vrai.
Eh bien, tu fais, c'est facile de faire ça. Là. À Montréal, on a tellement de la belle, du beau vieux qu'on pourrait conserver avec ça. Là. Tu fais le beau mélange là-dedans. Là. C'est incroyable.
Écoute, ça me fait rêver de.
Tu peux mettre le moderne, un petit peu moderne. Tu mets des belles appartements modernes sur le vieux, vieille brique montréalaise. Hein.
Ah, mon Dieu, dans le vieux port. Faites donc ça dans le vieux port. Ah, ouais, donc, le vieux chum démolissé.
C'était l'ancien hôpital. C'était l'ancien hôpital aussi. Ouais. Là, t'avais Radio-Canada, toutes des places comme ça.
Ça, on en a parlé.
Tout le monde pense à une place qu'on a besoin de recommencer au grand complet. Bien, on ne peut pas revivre. Dans 15 ans, on peut changer de place. Après ça, on revit cet endroit-là. Puis là, tu sais que dans 15 ans, tu déménages. Là, c'est là que tu as des environs. C'est là que ça grossit.
Aïe, c'est vraiment. Écoute, ça fait rêver parce que je m'imagine, un complexe,
faut que tu
mettons.
Penses là. À l'extérieur de ce qui se passe présentement. Parce que faut que tu penses dans 20 ans, dans 30 ans, dans 40 ans, c'est comment qu'on va voir le baseball. Non, le monde, les gars, là, avec la pandémie, on voit worst case scenario, mettons. Là. Mettons qu'on ne peut pas avoir 80 000 encore. On peut avoir 50 000. Mettons, on ne peut pas. Mais là, il ne veut pas dire qu'il n'y a plus de sport, là.
Mais non,
c'est autant de sport, là, le monde, il faut qu'il fasse quelque chose. Il n'y a pas rien qui va arrêter. Là, comment? Il faut donner aux fans. D'un meilleur produit, il faut le délivrer le produit d'une façon différente. Soit que, OK, on a moins de personnes au stade, mais on a le droit de dégager. Tu peux gager, mettons. Mais l'Auto-Québec, on pourra faire des choses comme ça, que tu peux être instant avec des.
Des
choses comme ça. Il y a tellement. Oculus qui fait une chose, c'est des VR, Virtual Reality.
Ouais.
Tu sais, c'est des choses comme ça là, que tu peux
ça,
penser.
Ça, c'est fou. Ouais.
Tu sais, tu parles le même achat, c'est sûr que tu n'as peut-être pas 50 000 personnes dans les estrades, mais tu en as 20, puis tu en as une autre avec des belles suites là-dedans, puis le reste, c'est-tu des beaux buildings alentours que quand dans 15 ans, tu déménages, tu peux revivre l'environ, tu peux la prendre au complet, le recycler. En tant que ce soit recyclable, un bel environnement, tu pars, tu n'as pas juste un gros trou, là.
Exact.
Mais un bel espace vert, là, tu as quelque chose que tu peux utiliser, tu penses après, là. Tu penses tout de suite après, là. Quand tu le fais, là, tu penses à quand on part.
Ben c'est peut-être ça que les Bronfman ont en tête. Je ne sais pas. Je sais qu'ils parlent d'un complexe qu'il y aurait autour, au niveau immobilier. Là, eux autres, ils ont vraiment l'intention.
Oui, je comprends. Parce qu'ils veulent faire l'argent alentour avec. Ça, je comprends. C'est normal.
Il y a peut-être une façon de combiner les deux, comme tu dis.
Après, c'est ça. Mais après, une fois que tu as revu, mettons, ils prennent ce secteur-là. Là. OK, on fait un stade-là. Mais ce secteur-là, dans 20 ans, là, mettons que ça ne marche pas là, dans 15 ans. Là. Mettons que ça ne marche pas. Tu as un gros trou? Là? Non. Pensez en avance. Qu'est-ce qu'on est capable de faire dans 20 ans, dans 100 ans? Il faudrait que cette équipe-là, il faut qu'elle reste à vie. Il faut qu'elle reparte encore. Il faut penser en avance. Il ne faut pas penser à aujourd'hui ou demain ou dans 20 ans. Là.
Éviter de reproduire les erreurs.
Exactement. Il faut qu'elle reste là tout le temps. Qu'on soit capable de renouveler notre équipe à chaque année, à chaque 10-15 ans. Tout change. Là. La façon qu'on fait nous, les choses à business présentement, dans 20 ans, est complètement différente.
Exact.
En 10 ans, dans 5 ans. Après, l'année prochaine, ça va être différent. Là.
Penses-tu que le fait que les Rays sont en finale de la Coupe de la Série mondiale présentement, penses-tu que ça aura un impact positif pour le retour des Rays Expo, entre parenthèses, la garde partagée, en fait, ou au contraire, ça va peut-être nuire, l'attachement à Tampa Bay va peut-être avoir grandi, les partisans, whatever. On dirait que des partisans, je crois pas à Tampa Bay, là, mais on dirait, je ne sais pas, là, ils ont déjà été en Série mondiale en 2008, puis ça n'a rien donné depuis ce temps-là. Là, fait que, est-ce que vraiment ça va changer grand-chose, positivement ou négativement, pour Montréal?
Écoute, ça va juste... C'est juste... ça va être mauvais pour Tampa Bay. Parce que pas qu'il y aurait plus de fans. Ça va être bon pour eux autres pour faire de l'argent, mais l'année prochaine, il faudrait qu'ils back it up.
Exact. Ouais, ouais,
si,
peut-être un an.
S'ils n'ont pas de fans. Ouais. S'ils n'ont pas de fans l'année prochaine, mais là, c'est sûr qu'ils partent.
Oui. Ben, c'est vrai.
The,
c'est
ultimate,
vrai.
The ultimate challenge est là. Tu sais, ça va être bon pour les. Ça va être bon. Montréal, écoute, on n'est pas attaché aux Rays.
Non, mais
on
c'est
une
comme
ville
ça, la seule
de
option,
baseball. C'est pas la seule option. Voyons, Major League Baseball regarde toujours à grandir. Oakland. OK?
Mm.
Oakland. Vegas, ils veulent une équipe. Portland, ils veulent une équipe.
Oui,
ouais, ils vont en avoir une. Nashville, ils vont en avoir une, c'est sûr. C'est bien trop une belle ville. C'est sûr à 100%. C'est sûr qu'ils vont une équipe à Nashville.
C'est ça, j'ai peur. C'est que d'autres, même Nouveau-Mexique, tu sais, qu'ils soient priorisés avant Montréal. Puis là, à un moment
donné,
tu peux pas avoir 40 équipes.
La priorité, là, si on est intelligent, Montréal, la priorité, c'est qu'il faut montrer un beau plan d'affaires, qu'on est prêt à 100%, qu'on sait exactement ce qui va arriver dans 50 ans.
OK.
Ou qu'on est prêt à toute éventualité. On est prêt à s'ajuster à tout ce qui va arriver. Puis, si tu arrives avec un plan d'affaires comme ça au Major League Baseball, ils se foutent. Ils veulent pas juste ils veulent pas juste une bonne ville. Ils veulent une ville qui sont capables de runner la business, de grandir le sport, l'engouement du sport. C'est ça qu'ils veulent. Ils veulent grandir le sport. Ils se foutent que le sport soit bon à Québec ou qu'il soit bon à Oakland, hein? En autant que ça soit bon.
Exact. Ah oh oui, c'est carrément
c'est ce qu'ils
ça.
Veulent. Oh oui. Si on est capable d'amener un bon produit, c'est de montrer les joueurs, le monde à Montréal, on est les bonnes personnes de business à Montréal, mais il faut vraiment être sûr qu'on pense en avance. Il faut vraiment avoir outside the box. Si on pense de faire le baseball qu'on faisait avant, approcher de la même façon qu'on fait les équipes dans le temps, on n'est pas les Yankees, on ne sera pas les Yankees. C'est un jour peut-être, mais il faut être innovateur. Il faut être sûr qu'avec. Innovateur avec nos fans, innovateur avec notre produit, innovateur de la façon qu'on construit une équipe. Faut tout changer, toute la structure. Pas la changer, mais regarder, réaliser la structure de baseball qui est là présentement.
Tellement, parce qu'on voit vraiment que le monde change. On voit beaucoup de virtuel de plus en plus. Je pense que 2020, le mot qui va revenir le plus souvent, c'est virtuel, les rencontres.
Bien, qu'est-ce qu'on fait, là?
Le podcast, écoute, moi, là, quand j'ai commencé à penser à faire un podcast, c'est exact, c'était le 11 novembre, avant la pandémie, là, c'était là que j'ai commencé à élaborer ce plan-là de podcast, puis jamais dans tout mon esprit, je pensais faire ça sur Zoom. Je savais même pas que Zoom existait, pour être franc. Skype, j'avais jamais eu l'application. Moi, je croyais pas au virtuel là-dessus. Puis moi, dans ma tête, c'était des entrevues one-on-one. C'est sûr qu'avec toi, ça aurait été compliqué parce que ça m'aurait pris un billet d'avion pour aller à
la. Ça serait jamais arrivé, exactement. C'est puis ça. Moi, ça fait longtemps au Québec, là. Le mot, viens-tu faire une entrevue en studio? OK. Ça va. Moi, je pense que je ne m'envoie pas un billet d'avion pour aller en studio à Montréal. Pour un one-on-one. Ça m'a coûté 5 000.
C'est pas rentable.
Penses-tu que Radio-Canada ou n'importe qui vont me donner 5 000 pour s'en aller pour faire une entrevue de 10 000?
Non, mais ils vont aller te rencontrer en Arizona, si on l'a vu avec RDS.
Ça coûte 100 fois plus, par exemple. Mais moi, je suis capable de faire ça et de donner mon content à vous autres.
Exactement. Merci encore.
c'est niaiseux, là, mais c'est le même. Tu peux, mettons, exemple, là. Je suis assis avec quelqu'un puis je parle du bon content. Du content, c'est tout ce qu'on a besoin, là, c'est pas compliqué. Là.
That's it. T'as tellement de choses à raconter en plus. Puis je me dis, les entrevues, comme tu dis, vont peut-être changer. Il y a beaucoup de choses qu'on voit, des géants de l'industrie qui rachètent des podcasts. Je pense que le podcast va prendre énormément d'ampleur dans l'industrie. Les gens, de ce qu'ils consomment, ils en consomment de plus en plus. Le podcast,
il va changer parce que qu'est-ce qui va arriver? Le podcast, ça va être rendu une façon de s'informer aussi. Ça va être rendu une façon d'apprendre. Écoute, je pense, oublie l'école, là. Le monde ne comprend pas. Le monde, là, le monde, il pense qu'on s'en va. Bon, demain matin, on revient comme à 100%. J'espère.
Ça ne reviendra jamais comme ça. Non.
J'espère. J'espère que ça arrive à 100%. J'espère ça à 100%.
Moi aussi.
Mais.
Les chances.
Il faut être prêt que ce ne soit pas ça. Puis, ça. Les gens, les enfants, là, ils vont avoir des résidus aussi. Les enfants, ils vont être stressés. Ils ne comprennent pas. Là. Un enfant de mon âge, là, mon petit gars, Harley, il ne comprend pas ce qui se passe. Il ne sait pas si c'est dangereux ou pas.
Mm-hmm.
Parce qu'il n'y a pas personne qui le sait. Fait que lui, là, il regarde ça, il dit, il ne peut même pas savoir si c'est un monstre, cette affaire-là. Ou
il a quel âge, ton fils?
J'ai 11 ans.
Il a 11 ans, oui. C'est quand même 11 ans.
Fait que là, tu vas dire, retourne à l'école.
Oui, c'est ça. Puis, ça y est,
ce qu'on t'a dit, oublie tout. Même à ça, même si on pense avoir, ça va être difficile pour les jeunes mentalement. Ça va être difficile pour la population, pour tout le monde, dans le fond. Là. Mm. Tu sais, c'est difficile, là. Tout a recommencé à zéro, on se fait rewire au complet. Tu sais, il faut penser que nos habitudes qu'on a tous les jours, le printemps qu'on a tous les jours, il va changer un petit peu.
Oui, puis tu sais, c'est vraiment...
C'est correct, ça écœure un peu, c'est plat, ouais. Mais je pense que si on se dit, OK, c'est correct, on essaie juste d'être ensemble là-dedans et on essaie de faire du mieux qu'on peut.
Oui, puis d'améliorer les choses. C'est qu'il dit que notre vie ne peut pas être meilleure. Bien, meilleure, c'est un peu difficile d'imaginer meilleure quand là, on n'a plus le droit de voir nos familles. Puis je ne sais pas comment c'est chez vous en Arizona, mais ici, on est dans une zone rouge. Fait qu'on n'a pas le droit de voir personne. Fait que c'est vraiment pas évident. Mais ouais, mais comment c'est justement la différence entre. Bien là, je sais que tu n'es pas en Arizona présentement, tu es en Californie, mais c'est quoi la différence entre les États-Unis peut-être puis le Québec? Je sais que tu n'as peut-être pas vécu au Québec pendant la pandémie, mais tu en entends parler. Comment c'est présentement chez vous?
Moi, mes enfants sont au Québec.
Ah oui,
mes enfants sont là. Fait qu'ils vivent ça à 100%. Tu sais, c'est
okay, ici, fait que
aux États-Unis. Oui, oh, aux États-Unis, c'est différent. Là.
C'est free.
Tu sais, c'est ça qui est de valeur. C'est politique. Là. C'est politique. Parler de la pandémie, c'est politique. Là. C'est ridicule.
Ouais,
c'est
ça qui est plate. Trump, puis qui dit il n'y a rien
c'est
là.
Ça qui est plate. c'est ça qui est plate parce que c'est pas. C'est important là-dedans, c'est être sûr qu'on s'informe, un. Puis qu'on écoute les experts, c'est pas compliqué, là. J'écouterais pas un gars un lanceur de baseball me dire quoi faire. Si j'écoutais un docteur me dire quoi faire. Si j'ai mal au bras, j'irais pas demander un bûcheron me dire pourquoi j'ai mal au bras. Je vais demander un gars expert qui a un bras, tu sais. C'est juste ça pour moi, c'est juste du common sense. Puis il n'y a pas personne qui veut se faire dire quoi faire. Puis je pense que là, c'est dur parce que tout le monde dit à tout le monde quoi faire, tu sais. Le monde se révolte un petit peu, mais. C'est dur, c'est trop. Ça qui est de valeur, c'est rendu politique. Puis on peut même pas en parler puis avoir une opinion. Sinon, ça veut dire que tu penses rouge ou tu penses bleu. Tu sais, c'est ridicule.
Ça, c'est vrai. Il y a une division qui s'est faite, puis je vois qu'aux États-Unis, c'est la même chose. Mais au Québec, c'est la même chose.
C'est
je trouve qu'il y a une division
valeur,
qui s'est faite entre le peuple. Si vous, c'est rouge ou bleu, bien, nous autres, c'est masque ou sans masque. C'est les anti-masques puis les pour le masque. T'es pour le gouvernement ou contre le gouvernement, mais c'était pas de même.
Bien, moi, j'aime les mathématiques, OK?
Ouais.
Puis j'ai regardé un chiffre, tu sais, c'est niaiseux, mais un point, à chaque fois que tu as une grippe, OK? Chaque fois que tu as une grippe, tu vas, une bonne grippe, là, tu vas avoir 1,4 personnes. Une grippe, là, 1,4 personnes que tu vas infecter, OK? Ouais. Tu fais ça fois 10, tenfold, ça fait 16 personnes, je pense, en fait la même.
Quand même.
Puis la même affaire qu'on a là, c'est 3 à 4 personnes, OK? Mettons 3. 3. Tenfold, c'est 59 000 personnes.
Et shit, à ce point-là. Fait que c'est plus facile c'est de contaminer ridicule, quelqu'un hein? avec la. Parce que c'est, comme je vous dis, on n'est pas c'est là pour trois, informer le peuple, là, mais ça reste que c'est ça pareil.
Non, mais tu sais, si ça c'est vrai, si ça.
C'est là la différence.
Là, on rend le monde bien, bien allergique. On ne sait pas qui. T'sais, c'est l'affaire, c'est que moi, je suis correct. Parce que je suis jeune, je suis en forme. T'sais, toi, tu es peut-être correct, mais on ne le sait pas. C'est ça qui est bizarre.
Ouais, c'est
l'affaire,
ça
c'est juste de respecter l'autre. Pour moi, moi, peut-être que je ne l'aurais pas. Ça ne m'affectera pas pantoute, mais c'est l'autre personne. C'est l'autre personne à côté que ça va peut-être affecter. T'sais, ma femme, il y a du monde que je connais qui l'ont eu.
Oui, ben, c'est t'sais, ça.
Ils ont été vraiment malades. Là. 3 mois, des choses comme ça à l'hôpital. T'sais, c'est dur. Puis, c'est pas ma job à moi. Je suis qui, moi, pour dire qui va être que je vais me rendre malade ou pas, t'sais?
Non, c'est ça. C'est...
Je pense que c'est juste un respect. D'essayer de respecter l'autre, respecter la personne à côté de toi. Puis t'espères qu'ils vont faire la même chose vers toi.
Exactement. Écoute, je suis désolé, ceux qui sont dans la vidéo présentement, là, il y a la mascotte officielle du podcast qui est à côté de moi présentement, ça me déconcentre
un
peu.
Il est encore en vie?
Ah, oh, il est pas mort encore. Il est pas mort, en fait. Oh, il est encore en forme. Écoute, ça me fait penser justement, tu me parlais de l'effet de la pandémie, peut-être sur le baseball, que ça pourrait avoir lieu. On parlait justement dans le dernier podcast que tu avais fait un séjour avec les Capitales de Québec, que tu avais permis de remporter le championnat, en fait, de la Ligue CANAM en 2009. Est-ce que tu penses que dans la Ligue, qui est maintenant Frontier, je pense, qui n'est plus CANAM, là, mais qui est Capitale et les Aigles sont, même les champions d'Ottawa aussi, je pense, maintenant, qui ont rejoint la Ligue. Bref, est-ce que tu penses que cette Ligue-là incluant ces équipes au Québec-là, pourraient avoir peut-être plus de succès, étant donné que les gens vont peut-être rester plus locales, qui vont peut-être pas aller voir des stades aux États-Unis, qui vont peut-être plus ça encourager dépend. Ça, ou ça les tue complètement?
Non, ça les tue pas. Je pense que, écoute, le baseball indépendant, il est indépendant du baseball.
Ouais.
Je pense que c'est ça la plus grosse affaire importante là-dedans, c'est que le produit que tu essaies de... Oui, exactement. Tu es vraiment à tes fans. Fait que tu penses vraiment complètement différemment. C'est du monde que tu as besoin d'avoir avec toi. Fait que là, comment tu peux ramener des fans? Que, mettons, comment tu peux avoir... parce que veux pas aussi comment ça va affecter l'argent du monde. C'est ça.
Le dollar loisir n'est plus là.
Il va être moins là localement aussi. C'est de valeur, là, mais c'est des gars comme à Trois-Rivières, les Aigles, ils vont... Mettons, ça va pas bien l'économie, mais le monde à Trois-Rivières qui travaille... Il y a des blue collars qui travaillent, mais ils n'iront pas dépenser 25-30$ s'ils n'ont pas besoin d'avoir une game de baseball. C'est là que ça va coûter plus cher un petit peu. Mais si tu amènes un nouveau produit, c'est là qu'il faut penser à d'autres choses. C'est là qu'il faut dire, gars, on est capable d'être intelligent, Baseball Québec, Baseball Canada, on est capable de s'associer ensemble, d'avoir des bonnes idées, puis arrêter de penser comme on pensait avant, puis commencer à penser dans le futur. Puis understand qu'on a un produit, baseball, c'est le fun. Les meilleurs produits que tu as, les meilleurs joueurs que tu peux avoir, tu les mets dans les régions. Exemple à Québec, à Trois-Rivières, à Ottawa. Moi, j'aimerais ça avoir une équipe une ligue canadienne. Ça serait le fun parce qu'on pourrait trouver des plus gros sponsors. Gros sponsors d'Air Canada, des choses comme ça. Puis tu veux voyager. Puis tu as la chance. Puis tu t'associes avec des Blue Jays qui t'aident un petit peu. Tu sais, des choses comme ça que tu fais grossir le brand des Blue Jays. Puis tu fais grossir le brand du baseball ensemble. Puis ça l'aide les régions. Je sais pas, ça serait ça plus le but.
Tellement.
Parce que veux pas. Tu as besoin d'aide au niveau régional. Tu as besoin, premièrement, de la ville. Tu as besoin de la ville qui t'aide énormément. Tu ne peux pas rien faire sans la ville. Tu ne peux pas rien faire sans les fans. C'est une façon difficile. C'est sûr que ça va être dur. La prochaine année, ça va être dur parce que tout le monde a perdu d'argent cette année. Les équipes indépendantes sont faites tuer. Ça fait mal. Ça va faire dur. Voyager, c'est encore plus dur. T'sais, tu vas voir que l'année prochaine, une année après, tu vas avoir des équipes qui vont avoir un petit peu plus de misère encore. T'sais.
C'est justement
bon. Faut penser au futur.
C'est ça.
L'impact
que les capitales ont réussi à faire quand même. Là, les capitales ont réussi à améliorer leur stade. Ils ont mis beaucoup d'investissements à Michel Laplante avec son dôme l'hiver. Le stade, en fait, qui est devenu synthétique, le terrain synthétique. Ils ont mis énormément d'argent sans savoir que la pandémie arrivait. J'espère sincèrement que cette ligue-là pourra continuer, surtout à Québec. On connaît l'importance des capitales pour la ville de Québec. Les Aigles également à Trois-Rivières qui ont un beau fanbase. On savait que c'était... Ils ont passé proche de, je pense, mettre la clé dans la porte quelques mois avant la pandémie. Ils avaient réussi à sauver le club et là, paf, la pandémie arrive. J'espère que ça ne sera pas, excusez l'expression, le dernier clou dans le cercueil là, pour eux. C'est vraiment du beau baseball. Tu as joué dans les deux stades également. Les fans sont là pour les bonnes raisons. Puis, moi, j'ai été complètement ébloui par cette ligue-là. J'ai adoré aller voir des matchs là-bas. Puis j'espère qu'on va pouvoir revoir ça bientôt là, pour eux. C'est une belle façon de développer du talent.
Moi aussi. Oui, moi aussi. Puis pas juste le talent aussi, c'est de montrer un sport. Écoute, un sport au niveau local, puis faire comprendre comment c'est important. Puis ça aide les jeunes à rêver aussi un petit peu. Là. C'est niaiseux, là, mais OK, pas tous les jeunes qui regardent les matchs de baseball, les majeurs, puis tout. Tu peux amener des écoles. Les jeunes, ils vont voir quand même. Je me rappelle à Québec, les capitales amenaient des écoles quand on joue des journées, mettons, le mardi, mercredi. Il y avait des écoles qui venaient, tu sais, des jeunes. Ah, c'est possible. Ils nous voient comme des joueurs de majeur. Hein, tu sais, c'est de faire rêver les jeunes régionales. Puis c'est important, ça. C'est vraiment important d'être en contact avec les... Tu sais, c'est pas juste par rapport au sport, c'est par rapport à la région. Tu sais, la région, les capitales de Québec ça fait partie de Québec. C'est comme les remparts de Québec. C'est comme les Nordiques de Québec. C'est les capitales de Québec. Ça fait partie de la ville.
Tellement.
C'est pour ça que j'ai pas vraiment peur par rapport au... J'ai peur parce qu'il faut qu'il y ait une ligue qui s'en aille à Québec aussi. Oui. Tu peux pas avoir d'équipe sans ligue, ça c'est normal, là. Mais Québec, c'est tellement une belle place, une belle affaire qu'ils ont faite. Le stade, comme tu disais, sont prêts à recevoir une équipe de 2A, de 3A. Sont corrects pour ça, je pense.
Peut-être le club école des Blue Jays. Si jamais les capitales, mettons, ne peuvent pas survivre dans cette ligue-là, il me semble qu'il y a un club école, exemple, des Blue Jays qui serait à Québec, parce qu'on a parlé de Montréal.
Ce que j'aimerais, n'oubliez pas là, que moi, j'aimerais qu'on soit des co-ops. C'est bien mieux de même. Bien mieux de co-op. Parce que n'oublie pas qu'il là, il va juste 10 rondes. Là. Puis les majeurs, ils perdent de l'argent là, tous les jours. Là. Ils vont se faire, ils sont fait faire mal encore. C'est sûr qu'ils ont moins mal que d'autres qui ont des plus petits, mais ouais, ça se fait, ouais. Le coût est aussi gros. Là. Il y a juste beaucoup plus d'argent, mais ils sont capables d'encaisser un petit peu mieux. Mais dis-toi qu'ils vont essayer d'économiser l'année prochaine. Il va y avoir moins de draft, moins de joueurs, moins de ci, moins de ça, moins de joueurs, plus de. Fait, qu'est-ce que moi que je fais? Si tu as un co-op, tu as des gars d'exemple, on serait, mettons, Québec, ce serait. Aurait tous des joueurs de Boston, de toi, des Blue Jays, des Yankees, tout Northeast, ils vont tous se rejoindre là. Tu as, mettons, 3-4 joueurs de chaque équipe. Puis c'est des joueurs qui viennent de se faire repêcher par ces équipes-là, qui ne sont pas prêts dans le 2 ou dans le 3. Parce que dis-toi, il va y avoir beaucoup moins d'équipes. Il y a 42 moins d'équipes de moins l'année prochaine, déjà.
Quand même. Hein?
Déjà, en partant. Là. Puis c'est avant la pandémie, ça. Là, avec la pandémie, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont essayer de diminuer en caisse. Ils vont essayer de couper les coûts, c'est dans les mineurs. Là. C'est là, les mineurs. Là.
Ah, mais ça va affecter puis le développement des joueurs.
Ben oui, mais qu'est-ce qui va être important, c'est que nous autres, qui est important, il faut qu'on parle aux gars des majeurs. Puis on a une co-op, on est avec eux autres. Ils nous supportent un peu, puis on les supporte en ayant le baseball. Fait que c'est une bonne... C'est une main que tu grandis le sport. Là. Tu peux parler aux Blue Jays, mais tu parles de Major League Baseball qui t'aide dans toutes les régions. Major League Baseball pourrait aider de toutes les ligues indépendantes. Ou faire une grosse ligue indépendante avec des gens de niveau d'un niveau 1, tiers 1, tiers 2, tiers 3. Et dans chaque région. Tu peux faire ça. Tu aurais tous les joueurs que les Yankees choisissent, mettons, dans le. Il va y avoir 10 rondes, mettons. Là, avant, il y avait 30 rondes. Fait que, mettons, 200. Tu vois quoi? Mettons, 2000 joueurs par année quasiment là, de plus. 1500 joueurs en affaires de même. Je ne me rappelle plus exactement c'est quoi les chiffres. Là. Mais il faut que je joue à quelque part.
Ouais,
mais qu'est-ce que j'aime, c'est qu'est-ce qui va être bon, c'est que ça va changer la qualité du baseball. Là, tu vois, toutes là, ils vont dépenser de l'argent pas mal plus sur des plus vieux joueurs de collège qui sont prêts à jouer dans le 2 ou dans le 3 parce qu'il va juste 2 ou 3 joueurs de ligue. Il va juste avoir 2 ou 3 équipes des mineurs. Faut pas oublier ça, nous autres, là. Faut oublier pas, là, nous on avait 3 équipes. Les Padres, ils ont 3 équipes dans le recru. Ils ont 2 équipes, OK? 3 équipes dans le recru, 2 équipes en République dominicaine.
Ah oui, c'est vrai.
IA, low A, A, 3A, double A, triple A, 10 teams.
Aïe, aïe.
Il y a 10 équipes de mineurs.
C'est ça, puis il y a 25 joueurs par équipe.
Là, ils vont descendre à 3, d'après moi.
Ah non, ça va scraper du développement, mais ça va empêcher encore plus de Québécois
d'atteindre... Ça ne va pas scraper le développement. Ça va scraper, oui, par rapport à chaque équipe. Mais moi, qu'est-ce que j'aime, c'est que les joueurs, là, ils ne sont pas attachés à l'équipe pour tout le temps. Fait, moi, mon but, c'est d'avoir tout ça, de vraiment de prendre ces joueurs-là qui sont... On va les appeler les leftovers, là, qui ne sont pas des bonus babies, mettons. Là. Parce que, mettons, les 5 premières rondes, c'est des gars qui ont des can't miss prospects. Dans le fond, c'est le gros argent qui va être là des 10 premières rondes, mettons. Puis après ça, il n'y en aura plus de draft. Fait que les 4-5 premières rondes, c'est là que l'argent va se dépenser. Mais s'il y a moins d'équipes mineures, ils vont dépenser plus par les vieux, plus les seniors de collège. Qu'est-ce qui va arriver? Le calibre va être bien meilleur au collège, va être bien meilleur au high school, va être bien meilleur au junior college. Puis tous les leftovers, le restant qui va arriver, qui n'ont pas dans le A, dans le 2A, dans le 3A, dans le rookie, ça, c'est 2, 3, 4 000 personnes qui ne joueront pas nulle part. Ça, c'est des ligues indépendantes.
Ah, tellement.
C'est là. Là, tu as une co-op. Fait que tu peux dire, gars, on a un tiers 1, tiers 2, tiers 3. On est 3. On a une ligue dans l'Est, dans le centre, dans l'Ouest. On a 3 tiers à chaque place. Puis, on aura pour avoir dans chaque équipe de l'Est, de l'Ouest, puis l'Ouest, on a des places stratégiques, on aurait des bonnes. Parce qu'il y a déjà 42 stades qui vont être ouverts. Là.
Ouais, c'est vrai.
Il y a 42. Là, il y a 42 villes qui sont prêtes à nous aider.
Ça, c'est si ça ne change pas, parce qu'on ne connaît pas l'évolution rendue là. Parce que là, la saison va débuter, mettons, dans le meilleur des mondes, le camp d'entraînement.
Il y a 42 villes présentement, des mineurs, aux États-Unis, qui ont un stade vide.
Ah, yoye. C'est vrai, est-ce qu'ils ont pas
que la ville paye pour un stade vide.
Ah, ça fait mal.
Tu dis, tu nous aides un peu. Tu nous aides un peu, on amène une équipe, on va avoir, mettons, tu vas avoir un tiers 1, tiers 2, tiers 3. Mettons, tu vas être un tiers 3, parce qu'on sait que la région où tu es. N'importe quoi, ça dépend, tu dépends ce que tu dis. Tu as tiers 1, tiers 2, tiers 3, puis avec les 3 régions. Puis dans l'Est au complet, toutes les équipes de l'Est des majeurs avec les low minor leagues, on voit tout ça là, ce qu'il y aurait quand même en République, leur place là. Ils ont quand même les joueurs là. Quand ils sont prêts à s'en aller aux États-Unis, ils s'en viennent en tiers 1, tiers 2, tiers 3. Ils pourraient partir du tiers 3, arriver dans le 2A, dans le 3A. Boum, les majeurs.
Ah, écoute, ça serait un beau plan. Sincèrement, j'espère que ça va se faire, mais c'est juste, est-ce que ça va affecter les chances d'un Canadien québécois d'atteindre les baseballs majeurs, sachant qu'avant ça, il n'y en avait déjà pas
c'est beaucoup? C'est juste que ça va changer. Non, mais ça va changer complètement le draft.
Ouais.
Ça va, parce que là, tu n'auras plus de joueur de high school, il va signer là, à moins que ce soit un gros prospect, parce qu'il va avoir juste 2-3 ans. Parce que, n'oublie pas, il y a juste 2-3, fait qu'il va jouer avec des plus vieux aussi. Fait qu'il ne signeront plus des gars de 16 ans à cette heure-là.
Ouais, c'est
ils ne signeront plus des gars de 17 ans, là, parce que dis-toi bien, il faut qu'il y ait des majeurs le plus vite possible parce qu'il y a juste 3 équipes.
C'est ça, parce qu'il y a beaucoup de gars de l'ABC comme Antoine
Jean. Ça va changer au complet. Il va y avoir moins de joueurs qui vont faire repêcher, c'est pas grave. Mais tu vas avoir beaucoup plus de chances parce qu'il va y avoir beaucoup de joueurs qui vont en haut. Là, parce qu'on pense tout le temps que c'est en des majeurs. Il va y avoir plus de carrières qui vont être faites. Parce qu'on peut faire des belles carrières aussi. Tu peux jouer toute ta vie. Puis si tu fais comme il faut, tu vas être capable de payer un gars 50 000 par année pour jouer dans la ligne indépendante. 60 000, 75 000 avec tous les bénéfices au complet. Ils ne seront plus à travailler à 250$, 300$, 400$, 500$ par mois, puis après ça, on les envoie dans leur pays après, ou on les envoie à la maison.
Mais ils n'auront pas d'études, par contre. C'est ça le problème.
Rien, le monde, sont finis. Fait, c'est pour ça que moi, avec la Ligue indépendante, tu parles aux maisons majeures, tu te soutiens un petit peu, tu parles aux villes, la ville se soutient avec les sponsors. Tu peux faire au Canada, tu peux faire aux États-Unis, les Canadiennes, les Américaines. Tu peux faire la même affaire.
C'est ça, mais je me demande juste...
Tu as tout supporté ensemble.
Oui.
À la place d'être tout être séparé, tu n'es pas obligé d'avoir 25 front office. Pourquoi qu'on a à chaque équipe, on a un front office quand on fait toute la même affaire?
Ça, c'est vrai. Ah, mais ça va enlever des jobs, ça, c'est clair, par contre, mais...
Non, ça va enlever des jobs, il n'y aura plus d'équipe.
Oui, non, mais c'est ça, c'est ça. Ouais, ben c'est,
on n'enlève pas de job, là. Ouais. On fait juste grosser. Parce que plus que ton produit, là, parce que les équipes meurent de toute façon. Oui, on va enlever ta job. Mettons, là, on va t'enlever ta job aujourd'hui, le front office. Mais ça va changer, ta job. Tu sais, il y en a 4-5, là, mais la job, tu vas la perdre de toute façon. On va en ramener une équipe ici. C'est juste qu'on on fait juste changer les tâches. On divise les tâches différemment. C'est plus efficient. Puis après, tu vas payer 150 000 à ton front office, mais tu pars un front office à 50 000. Qui travaille, avait fait des bonnes choses, tu as ton argent là pour payer des joueurs ou pour aider avec d'autres choses.
C'est
tu vas avoir faut que ça soit fait comme ça. Tu ne peux pas survivre à vivre. Comme à Québec, qu'est-ce qui est le fun? Ils ont un bon marché, ils ont fait un gros job, mais Québec, c'est un marché. Il n'y a pas de ligue.
C'est ça le problème. Oui, c'est sûr. C'est un bon marchand en plus de baseball de Québec. Puis tu le connais bien parce que j'ai oublié de le mentionner dans l'intro, mais tu es encore propriétaire, un des propriétaires de B45, toujours à l'heure actuelle. Oui, c'est encore le gars. Okay, je suis pour être sûr que ça ne va pas changer pendant la pandémie. Mais,
non, ça grossit, ça va bien.
Oui, c'est ça. Mais justement, comment tu as vécu, toi, la pandémie en tant que propriétaire de B45? Est-ce que tu as trouvé ça plus difficile ou vu qu'il y avait du baseball dans le baseball majeur, ça n'a pas trop changé vos commandes là-dessus?
Non, ça a changé énormément, mais on a été chanceux parce qu'on a des bons employés, premièrement, qui ont vraiment compris. Puis on a réinvesti un petit peu pour donner aux employés un petit peu de... Mais qu'on est chanceux au Canada aussi. Le gouvernement a aidé énormément. On est pas une ressource naturelle. Fait qu'on a eu la chance. Les autres propriétaires qui sont avec nous autres, ils connaissent ça vraiment, comment que ça se passe. Fait que j'ai été chanceux. Moi, j'ai rien fait là-dedans. c'est tous mes partners qui ont
un soutien moral.
Exactement. Moi, j'ai un gars d'idée.
Ouais, c'est ça. Écoute, c'est cool. Mais en même temps, on a vu...
Mais ça a bien été. Tu sais, on s'est fait... Tout le monde s'est fait faire mal. C'est normal. Mais je pense qu'on était chanceux parce qu'on est arrivé à un bon moment. Ça est arrivé à un bon moment parce que c'est arrivé exactement quand on savait que les commandes descendaient un petit peu. Puis on était chanceux. On a eu de l'aide beaucoup.
En même temps, il y a eu un beau... j'ai vu Kevin Young qui est dans mes amis, vu que je l'ai déjà reçu au podcast. Là, il a parlé d'un certain Patchy avec les Braves d'Atlanta qui, je pense, qui portent fièrement vos produits, vos bâtons. Puis il y a eu une couple de bonnes performances dans la série division. Puis ça vous a fait de la belle pub malgré tout en ce moment. C'est sûr que c'est pas évident comme pour toutes les entreprises, mais au moins, ça vous a aidé là-dessus.
Oui, ça va bien. C'est tellement un beau produit, un produit québécois. Puis c'est le fun parce que j'ai beaucoup de projets qui s'en viennent avec eux autres. On travaille beaucoup avec utiliser le brand sur le marché américain, les prochaines steps, qu'est-ce qui va arriver avec nous autres, qu'est-ce qu'on va faire. Exactement. T'sais, c'est un brand québécois. C'est quelque chose qui a été parti avec Michel Laplante au début. Écoute, l'idée de ça est parfaite. J'ai été chanceux. On a reçu une belle compagnie. On a un bon branding, on a un bon produit. Puis, on a une belle histoire aussi. Tu regardes, là, qu'est-ce qui est le fun? On a tous les bats, encore les vieux bats que Michel avait fait avec des vieux logos. C'est le fun d'avoir l'histoire. C'est un produit québécois. Puis, on espère le garder au Québec puis faire grossir, puis d'avoir le plus d'employés possible avec les Québécois, de joueurs de baseball. Puis c'est le fun. C'est Kevin Young travaille fort. Tout le monde à shop, il travaille tout le temps. Ils n'ont pas vraiment d'accolade jamais, mais c'est, ils travaillent fort. Hein, aussi, ils ont des rushs souvent. Là, les rushs viennent d'une shot en plus. Là.
C'est ça, surtout pas d'accolade en ce moment, mais ça reste que. Oui, c'est ça. Dans le fond, ça reste quand même que pour toi, c'est important d'investir dans une entreprise québécoise. Je pense à la fin de ta carrière, tu as beaucoup d'intérêt au Québec. Tu sais, on a vu comment tu t'es impliqué à revenir dans le baseball québécois avec les Capitales, les Aigles. Tu sais, puis je pense que ça a toujours été important pour toi d'investir ici un coup ta carrière finie. Est-ce que c'était déjà clair dans ta tête une fois pendant le top de ta carrière que tu voulais faire ça ou c'est une fois l'opportunité qui s'est pointée, tu as dit « go, j'y vais ».
Ouais, c'était pas clair. C'était clair que moi, je vais revenir au Québec puis faire grandir le baseball au Québec. Je n'avais pas exactement comment faire grandir le grossir sport au Québec. Puis, je pense que quand j'ai eu la chance avec B45, j'ai sauté dessus parce que c'est une belle compagnie, c'est une bonne idée, c'est un bon produit. Puis, c'est quelque chose qui était solide. Il y avait beaucoup de choses. Puis, moi aussi, que je pourrais arriver là puis les aider aussi dans qu'est-ce que le produit avait besoin, qu'est-ce que la compagnie avait besoin. C'est ça que j'ai fait. On a une belle équipe en place, puis on travaille bien ensemble. Tu sais, moi, je suis un gars qui a beaucoup d'idées, puis je pense gros, puis souvent, les idées, ça ne peut pas se réaliser tout de suite du jour au lendemain. Fait que une bonne équipe peut faire réaliser qu'il y a beaucoup d'étapes qui passent avant qu'on ait un produit qui arrive là. On a un gars de baseball qui est là, il est beau, on l'aime, on est content, mais il y a beaucoup d'étapes qui passent avant. Fait que ouais. C'est le fun de voir ça avec l'équipe, d'apprendre avec eux autres, puis de voir toutes les étapes qui se passent.
Bon, oui, c'est vrai, parce que vous avez vraiment diversifié vos produits. Vous n'êtes pas juste dans les bâtons, c'est important de le mentionner. Ils font des gants également de frappeurs comme des gants d'avant-champ naturellement, tout ça. Ça s'en vient, on va voir le logo de plus en plus qui est magnifique. J'invite les gens, comme j'avais dit dans le podcast avec Kevin Young aussi, allez encourager B45 directement. Si vous êtes comme moi, un joueur de baseball, peut-être juste un joueur de baseball de ligue
baseball,
senior,
softball,
là, senior. Oui, c'est ça, softball aussi. Allez acheter des gants, n'importe quoi, un beau bat, j'en avais un. Je me l'ai fait voler, il faut que je m'en rajoute un autre. Le monde les vole tellement qu'ils sont bons. Ça vous donne une idée.
Non, qu'est-ce que on a des beaux produits au Québec. Ça, c'est le fun. Parce qu'on a des belles compagnies. Écoute, du Birch, oui. Ils ont inventé ça. C'est les premiers qui ont inventé ça. C'est arrivé avec. Ça serait une bonne idée. Oui, c'est beau. C'est le fun. C'est une belle compagnie. On a du fun. On s'amuse. Moi, j'ai acheté ça pour garder mon intérêt du baseball après que. J'ai lâché, gardé un petit peu un pied au baseball, puis ça m'a aidé. J'ai appris énormément par rapport au business, énormément comment gérer du monde, puis c'est le fun.
Ben oui, écoute, c'est vraiment le fun. Écoute, je vois l'heure qui file, Eric. Tu me dis que tu voulais absolument aller faire du vélo à l'extérieur le temps qu'il fait beau, même s'il fait un peu noir. J'espère que le trafic va passer de ton côté un peu aussi. Je voulais jaser en terminant. On a une couple de sujets qu'on a abordés, naturellement, le baseball en ce moment, le baseball le durant ta carrière, tout ça. Si, mettons, je reparle mettons, là, je te replonge dans tes souvenirs, là, vraiment, là, dans tes bons souvenirs. Mettons, tu arrives en fin de vie demain matin, là, c'est quoi le souvenir que tu vas te rappeler le plus, le meilleur souvenir, en fait, de ta carrière qui va ressortir, un moment que tu aimerais revivre demain matin, exemple, que c'est d'embarquer sa butte durant tel moment précis d'un match. Y a-tu un moment en particulier qui te vient en tête?
Il y en a deux parce qu'il y en a un que c'est rembarqué sur le monticule à mon premier départ sur le monticule en Floride. Puis je ne me rappelle plus bien. Tu sais, je ne me rappelle plus comment je me sentais. J'étais vraiment nerveux. Ouais, j'étais tellement nerveux, je ne me rappelle plus de rien. Puis avoir mon bat encore comme Barry Bonds. Je vais refaire celle-là. Ouais.
On a parlé de cette anecdote-là, ceux qui veulent l'entendre. J'aimerais tellement la refaire, mais je ne veux pas répéter. Fait allez réécouter le premier podcast. Ça va faire
pour
un tease
en même
temps.
Pour ça, j'ai dit ça, parce que je ne peux pas répéter.
Merci. Non, mais pour vrai, c'était tellement bon, là, cette anecdote-là. L'at-bat de Barry Bonds, ceux qui veulent voir ça, une présence légendaire. Allez voir ça sur YouTube aussi, c'est tout disponible. Je me l'ai retapé deux fois depuis notre podcast. Écoute, je ne me tanne pas. C'est tellement... Je me sens dans ta peau. On dirait, je vois la nervosité, mais en même temps, le calme que tu as fiche la sueur dans ton front, mais que tu le sais que tu n'as pas chaud parce que tu as un effort physique tant que ça. Tu as chaud parce que tu veux vraiment performer à ce moment-là. La pression est au top. Et ta balle rapide est à son meilleur. Et ça finit naturellement par du classique de Barry Bonds. Mais quand même, ça a été une présence épique, légendaire. Moi, j'en ai plusieurs qui me viennent en tête. Outre Barry Bonds, on a parlé aussi... d'un autre frappeur des Giants, Tucker aussi, que tu avais eu une présence assez mémorable contre lui. Est-ce que tu as un frappeur que tu vas dire « je suis tellement fier de l'avoir affronté » ou « j'ai tellement eu de la misère à le retirer, ce gars-là », exemple 10 pitch dans le at-bat?
Gars, je ne répondrai même pas à ta question. Je vais te donner un frappeur que j'ai affronté puis j'étais là « wow ». Je n'ai jamais vu un beau swing comme ça, c'est Ken Griffey Jr.
Je m'en allais dire Ken Griffey juste avant que tu le dises. Wow!
Ah, wow!
Fluide!
Wow. Beautiful! Ouais. C'était beau, là. C'est comme un swan, là. Tu sais, un swan là, sur l'eau, là. Son swing, là, c'est parfait. Là.
Tu l'as affronté avec les Mariners ou les Reds?
Non, il était à Cincinnati. Ouais. Il a frappé un home run sur un change-up 3-2 prises, opposite way. À Dodger Stadium.
Opposite en plus, wow!
Ah, puis on dirait même pas, là. On dirait même pas. Il a juste fait ça. Avec une main, là.
Flatté,
puis j'étais là, oh, c'est un beau swing, mais je n'ai même pas regardé où ce qu'elle était. Puis la balle était à 375 pieds.
Oh
plus
my
loin.
God. Ouais, quel beau swing. Ken Griffey, allez voir ça encore. Ouais.
C'est beau, là. C'est la perfection comme swing.
Ah ouais, carrément. Puis tu sais, je pense pas qu'on va revoir ça. Il y en a une couple de beaux swings. Tu sais, je regarde Cody Bellinger, Bryce Harper, c'est violent, mais même que c'est spécial.
Non.
Mais il n'y a rien de fluide comme Ken Griffey. Ça coulait.
Ken Griffey, je pense, si tu regardes un gars, ça c'est un swing, c'est Ken Griffey. Puis un autre swing, je pense, c'est...
Barry Bonds était spécial pareil. Là.
Oui, mais c'était short, puis ouais. Tu voyais pas. T'sais. Un gars comme... Je pense que Griffey, c'est le plus beau swing de l'histoire. Là.
Ouais. Oh,
c'est le plus beau swing, je pense. C'est le plus smooth, le plus repli. Il n'y a pas personne qui est capable de le refaire. Il fait quelque chose de spécial. Puis tu vois, tout le monde parle de launch angle, mais lui, il faisait son beau à launch angle.
Là. Ah, tellement. Puis tu sais, il y en a qui comparent avec Mike Trout. Rien contre Mike Trout, c'est un joueur incroyable puis tellement complet, mais il n'y a rien de spectaculaire.
Mais le swing n'est pas pareil.
Non, c'est ça. Tu sais, tu ne payes pas un ticket. C'est pas pareil.
T'sais. Moi, je paierais un ticket. Je sais pas. C'est dur à dire.
Bonne question. Paierais-tu le même prix pour Mike Trout?
Oh oui, je paierais le même prix. Mais tu regardes quelque chose de différent. Tu regardes Trout, tu regardes un gars dominé, un bulldog, un gars qui peut te rentrer et te casser. Tu vois un gars comme Griffey, like water, man. Il n'y a rien qui fait qu'on dirait qu'il n'y a rien. On dirait pas qu'il bouge.
Ah, non.
On dirait pas qu'il essaye de rien faire. Tout est là. On te dit, il devrait être là.
Quelle carrière qu'il aurait eu sans les blessures, c'est fou. Là. C'est fou. Je pense qu'il aurait vraiment battu Barry Bonds. La progression au début de sa carrière était fulgurante. C'est vraiment les blessures qui l'ont ralenti. Ben, on parle de ralenti. Il faisait 30 circuits pareils année après année. Là,
il l'a ralenti beaucoup. Il a manqué quasiment 5 ans. Là. 5-6 ans de la carrière à cause des blessures que, mettons, on ne va pas enlever.
Carrément. Puis, tu sais, il avait pris du poids aussi. Il était moins en forme qu'il était plus jeune. Là,
c'était pas courir. Je pense que c'est en plus quand tu blesses les jambes, je pense que c'est un quad, un hamstring, je pense qu'il y a une grosse affaire. Là.
Ah ouais, c'était pas drôle. Non, c'était pas drôle. On parle de tes souvenirs dans les meilleures apparitions, mais tes souvenirs, on a parlé la dernière fois. L'anecdote préférée de mon dernier podcast était ta fameuse présence le dimanche 11 mai 2003 au Stade olympique, que tu avais un peu trop veillé la soirée d'avant. Dans le fond, les souvenirs te viennent sûrement à l'esprit. Mais tu sais, ça reste que c'est des beaux souvenirs quand même du stade. Non, il n'y en a plus de souvenirs.
Mais ça a été... Une fois qu'on en parle, on oublie ça.
Ça a été un beau moment, une belle anecdote que tu as racontée dans le dernier podcast. Et ce fait unique, c'est que j'ai le billet en arrière de moi parce que j'étais là à ce moment-là dans le Stade olympique. Et toi, dans le fond, t'as-tu un autre souvenir du Stade olympique? Ton meilleur moment, c'était-tu vraiment celui-là ou tu as vraiment un autre moment, tu te dis « wow ». Ça peut être comme joueur, comme partisan aussi, plus jeune.
Ah, mon meilleur moment pour le Stade olympique, c'est quand que j'étais vraiment, je pense que j'avais 10 ans, 11 ans maximum, puis on avait ouvert un gros flag, là, un drapeau. Puis je me rappelle plus si c'était le drapeau américain que j'ai ouvert ou le drapeau canadien, mais c'est énorme. Ça fait le terrain au complet. Puis je pense
OK, t'étais sur le terrain, toi, là.
Oh, oui, sur le terrain. Ouais. L'hymne national, on a ouvert le drapeau de la gang. Je pense qu'il y avait 500 kids, là. C'était le fun, là.
Fait que t'étais parmi
quelque chose
de spécial. 500.
un des 500 kids.
Finalement, t'es un des seuls 500 à avoir joué après sur le terrain.
Je sais pas, ce serait le fun de savoir c'est qui. Hein.
Ouais, on lance l'appel
sûrement
au podcast.
Sûrement un gars comme La Forêt. C'est surtout les gars de baseball mineur, je pense. C'est une journée de baseball mineur qu'on avait été là. Fait que...
Ah, tellement, ouais. C'est un beau
mais
souvenir.
Tu vois, c'est ça qui est important. Là. C'est ça qui te fait rêver. Moi, je me rappelle... J'ai embarqué sur le... Tu embarques là, tu vois pas juste la butte, tu regardes les fans. T'es là, wow!
Ouais, c'est la première fois que tu t'imaginais ça. Là, ouais.
C'est la première fois que tu dis « Oh my God, j'aurais peur, moi, ici. »
Ah, oh, mon Dieu, ouais. Puis...
c'est la première fois que j'ai embarqué sur le terrain de baseball, puis c'était dur, en plus, c'était en concrete dans le temps. Là. Ah, le vieux gazon synthétique était ça d'épais.
Ah, le c'était vieux vraiment, turquoise, là, avec des lignes.
Ouais, même, c'était vraiment juste un verre. C'était juste vert.
Ah, il était dessus, laid, pareil. Ah, parce que c'était pas des bons souvenirs du stade, mais ça faisait charme.
C'était un tapis vert.
Ouais, un tapis gazon. Mais à part ça, comme joueur, ton meilleur souvenir au stade, c'est quoi? T'avais-tu vraiment une apparition? J'imagine ta première présence, ça a dû être intimidante au stade olympique, là.
Oui, quand je suis revenu, mais écoute, je pense que au stade olympique, ma plus belle journée ou ma plus belle game que j'étais là, c'était pas vraiment en tant que lanceur. C'est sûr que la première fois que j'ai lancé, il y avait, je pense, 10-12 000 personnes que je connaissais avec toute ma famille. Ça, c'était vraiment spécial. T'entends toutes les voix, tu reconnais toutes les voix dans le stade.
Il n'y avait pas grand monde à cette époque-là. J'étais parmi ceux-là.
Il n'y en avait pas énormément. C'était spécial, c'était le fun. C'était vraiment embarqué sur le monticule pour la première fois. Puis, le stade, il sent différent. Il y a une senteur du stade olympique qui sent un peu différent. C'est niaiseux, mais je parle d'histoire, puis encore, j'ai encore la senteur que je me rappelle un petit peu la senteur. Ça sent différent. Puis le son aussi, des lumières.
Ah ouais, les néons qui apparaissent.
Le son des lumières, ouais.
L'écho des speakers dans le temps, c'était pire encore qu'aujourd'hui. Wow. Là, le prochain lanceur.
Moi, j'étais là avec j'ai regardé Metallica puis Guns N' Roses quand il y a eu le gros.
Les meurtres.
Les meurtres. Puis moi, la raison pourquoi j'ai choisi Guns N' Roses, là, c'est parce qu'ils ont dit F you Montreal.
C'est pas vrai, ça. Voyons donc.
Ah ouais?
Hey, t'étais dans le stade quand il y a eu les meurtres?
Oui, mais je suis parti juste avant.
Ah, mon Dieu!
Parce que c'est là qu'il y a eu le pyrotechnie d'en face, le gars Metallica. Les cheveux, je pense, s'est fait brûler quelque chose.
Mon Dieu!
Guns N' Roses, il est venu sur le stage. Je pense que j'avais payé 250$, j'avais pas une scène en plus. Hein.
Aïe, aïe, aïe.
Ils sont partis, je pense, avant 4-5 tonnes.
Ah, mon Dieu! Puis il y a une chance que t'es parti avant, mais ça a brassé.
Moi, je suis parti avant, c'est ça. Je ne savais même pas qu'il y avait une émeute.
Aïe, aïe, fait que t'as-tu gardé le billet de ça? Parce que c'est historique là, comme moment.
Non, puis c'est la raison pourquoi j'ai pris le nom de ma tune, puis Guns N' Roses à cause de ça.
Wow, OK, c'est une belle anecdote ça aussi, je savais pas ce côté-là. Hey, c'est incroyable, pareil que t'étais dans ce moment-là, puis tu savais pas que quelques années plus tard, tu foulerais le stade olympique sur le monticule.
Là, j'ai une balle signée de Slash.
Pour vrai, wow, hey, quel beau moment ça aussi. C'est un beau souvenir en fait à avoir. Là. L'as-tu bien encadré chez vous? Même pas.
À côté de mon chose, à côté de ma grosse, j'ai une grosse guitare de Metallica signée par toute l'équipe, puis ma balle de Slash dedans.
Ouais, justement, tu me laisses penser à ça. T'es-tu un collectionneur, toi, ou t'as-tu pensé à collectionner des objets au fur et à mesure de ta carrière? Ou?
Non, j'ai collectionné un petit peu d'affaires, mais pas énormément.
OK, oui. Ouais, fait que t'as pas tant collectionné d'objets, exemple, t'as connu telle vedette, puis t'as dit...
Non, j'ai gardé mes choses un petit peu, j'ai pas énormément d'affaires, par exemple.
OK, fait que ton sous-sol, je m'en allais dire, c'est ça, mon sous-sol a plus l'air d'un fan fini qu'un tien, mettons.
Non, mais j'en ai, non, parce que regarde mon garage, où est-ce que je m'entraîne, j'ai plein d'affaires dans moi. C'est comme j'ai dit, j'ai un gros chapeau de pompier. Avec mon numéro dessus de LA Fire Department, des choses comme ça. Ça c'est cool, le fun. L'affaire cool que j'ai gardée.
Ouais, malade. Okay. Hey, wow, écoute, on a étiré à la sauce un peu plus que prévu, excuse-moi, Eric. En terminant, avant de te laisser partir vite, t'es-tu réentraîné encore en vue des Olympiques pour le baseball, de revenir un jour aux Olympiques? T'es-tu en processus de t'entraîner?
Là, je suis dans mon break.
Ouais, OK. Break,
je prends mon bras relaxe un petit peu, là, mais là, je vais être prêt. Là. Peut-être l'été prochain.
Dernier podcast, tu étais à 90, tu nous disais. Là, t'as-tu upgradé?
Ah, ben oui, mais là, tu m'avertis avant. Là, moi, j'ai besoin d'un mois complet. Mais j'ai pas lancé 90, te dis ça.
OK. Fait que là, ça, on a espoir.
Faut que j'en revienne une autre fois.
Ben, écoute, là, t'as pas le choix, tu me réinvites. Il va falloir que je te réinvite une troisième fois au podcast dans la troisième saison. Fait que si je calcule, la troisième saison devrait débuter en janvier. Fait que là, t'as jusqu'à janvier pour te mettre en forme.
Parfait.
T'es en masse. En plus, les Olympiques de Tokyo, il va y avoir du baseball. Fait que t'as peut-être une chance de faire l'équipe.
Ouais, c'est au mois de juin, je pense. Hein?
Ouais,
juin
ou juillet. Si tout a lieu comme prévu, bien sûr, on espère vraiment. Là, ouais. Fait que je te le souhaite.
On espère.
Ouais, hey, écoute, un gros merci encore, Eric, de ta grande, grande générosité. Écoute, vraiment plus qu'on pensait encore une fois. Et puis, on se donne, qui sait, rendez-vous pour un troisième podcast dans la troisième saison au cours de l'hiver. Puis, je suis sûr qu'on va avoir plein de sujets baseball à quoi jaser. Puis, je te souhaite sincèrement un hiver rempli d'entraînement et de baseball très bientôt.
Toi aussi, mon homme. Ça fait plaisir. Salut,
merci beaucoup, bye-bye. Tout le monde. Et puis, on se retrouve pour un prochain épisode du Made in Québec podcast. T'as pas près de nos yeux, tu y es mascouche. On ferme les lits, c'est terminé. Qui monte sa butte, c'est Péricani. Avec ta barre bichette, t'as déjà striké dans tes bichettes. Puis avec tes lunettes qui font peur, ta victoire est signée. Game over. T'as quand pas dans l'œil. Un dernier clou dans le cercueil. T'as déjà rendu Mike Piazza créatif. 84 otages consécutifs. T'es devenu le roi du Dodger Stadium. La faute a gagné le Cy Young. A pas du compliment de la série mondiale. Tournez chez vous à Québec au stade municipal. On ferme les rives, c'est terminé. Qui monte sa butte, c'est Eric Gagné. Avec ta barre bichette, t'as déjà striké dans tes bichettes. Puis avec tes lunettes qui font peur, ta victoire est signée. Game over.